Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le Climat Parent Live. J'espère que vous nous voyez et que vous m'entendez. Ce soir, je suis avec Anne-Claire Poirier. Est-ce que ça va, Anne-Claire?
Oui, ça va, et toi, Rodolphe?
Ça va très bien. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Moi, je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans et je me suis spécialisée depuis un peu plus de 10 ans dans les sujets énergie et climat. Je suis tombée dedans dès la sortie de l'école et je ne sais pas si j'en sortirai un jour, ma foi. Donc aujourd'hui, je suis indépendante, ça veut dire que je travaille pour plusieurs médias, une petite dizaine en tout. Ça va des grands médias généralistes comme Libération ou Figaro, aux plus spécialisés, aux plus jeunes, on va dire, vers le média. C'est un petit média très dynamique qui a 4 ans. Et voilà, donc le climat sur tous les tons, dans tous les supports.
Et alors c'est vrai que moi je t'ai introduit en disant que tu venais de Vers, je croyais que c'était un bon bout de ton activité. Du coup, tu répartis comment ton activité
Ouais.
entre les différents journaux?
Alors j'ai effectivement deux gros employeurs qui sont Vert et Context. Context qui est un site d'information surtout professionnel, spécialisé dans les politiques publiques et pour lequel effectivement je couvre aussi l'énergie. Et puis pour le reste, c'est des collaborations qui sont un peu plus ponctuelles. Je ne serais pas forcément en mesure de dire qui prend le plus de place, qui rapporte le plus d'argent, mais voilà. C'est vrai que surtout vert pour les élections européennes en tout cas, qui est le sujet qui nous réunit ce soir.
Ok. Et tu veux toucher quelques, tu veux dire quelques mots de plus sur Vert ou on rentre dans le vif du sujet comme tu veux.
Ouais. Oui. Surtout que Vert vient de passer ses 4 ans avec beaucoup de dynamisme et lance pour aller encore plus vite et encore plus loin sur les sujets liés au climat et à la biodiversité, une nouvelle campagne pour se financer. Donc j'en profite pour faire un appel aux dons. Vert, ça fonctionne à prix libre, donc l'information peut être gratuite pour ceux qui ne peuvent pas y mettre beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que ça coûte rien. Donc pour aider la rédaction à grandir, ils recherchent des nouveaux membres de leur club, donc qui sont un peu les donateurs plus. L'idée, c'est de passer de 3 000 à 6 000 d'ici le 16 juin. Voilà.
Ok. C'est un peu le même
Donc aller sur leur
fonctionnement.
site.
C'est un peu le même fonctionnement que le réveilleur au final. Mais chez Vert, vous êtes plus nombreux. Vous êtes combien maintenant?
Alors, je crois qu'il y a 7 salariés, disons, permanents. Et puis des gens comme moi, en fait, qui sont collaborateurs très réguliers, mais pas quotidiennement à la rédaction. Donc, autour de Vert, il y a quand même, ouais, je pense, une bonne quinzaine, vingtaine de personnes qui gravitent, hein.
Ok. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et donc ce
Ouais.
soir, on voulait parler des élections européennes qui approchent à grands pas, puisqu'il faudra voter ce dimanche. Donc voilà, je pense que un des premiers messages, c'est que c'est important d'aller voter. Je pense qu'on pourra déjà faire passer celui-là. Donc peut-être expliquer voilà, pourquoi on vote, pour qui on vote, comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment tu veux lancer ce bout-là, mais on peut commencer par là.
Ouais. Moi, je vais déjà essayer assez rapidement de convaincre, même si à mon avis, je m'adresse déjà à des gens qui sont un peu convaincus d'aller voter. Mais bon, ça vaut quand même un peu le coup de le rappeler parce que je crois que cette année encore, on attend 50% d'abstention. Les élections européennes, c'est vraiment un rendez-vous démocratique raté en général. Les médias d'ailleurs ont une grosse part de responsabilité dans l'affaire. Je regardais encore cet après-midi un rapport de la fondation, quelle fondation déjà? C'est Jean Jaurès, je crois. Au maximum du maximum, les sujets européens, c'est 3% du temps médiatique. Donc, faut pas s'étonner après que les gens s'intéressent pas à l'Europe. Et donc, la conséquence, c'est que du coup, les gens ont vraiment l'impression que c'est un peu une élection un peu, enfin. Même pas l'élection d'ailleurs, j'ai l'impression que l'Europe, il y a beaucoup de gens qui soit considèrent que c'est un objet technocratique trop lointain et presque un peu trop puissant qui déciderait sans nous, soit c'est l'inverse, les gens prennent ça pour un gadget un peu. et donc vont voter aux élections européennes, un peu comme on va au référendum, en se disant qu'ils veulent faire un vote sanction pour ou contre Macron, quoi. Et donc on se retrouve avec des eurodéputés qui sont quand même effectivement élus et qui vont quand même effectivement avoir un pouvoir. Donc moi j'avertis quand même beaucoup sur ce genre de comportement. Alors pourquoi c'est important d'aller voter, surtout quand on s'intéresse au climat? Parce qu'en fait, l'Union européenne s'est saisie du sujet, là, surtout au cours du dernier mandat, en votant énormément de textes sur le sujet, plus de 70, je crois, de mémoire. Et on considère aujourd'hui que sur des sujets comme l'agriculture, comme l'environnement, et même comme l'énergie, on n'est pas loin de 30% des textes, enfin 30% des lois. La Commission européenne dit 30% des lois. Alors, c'est pas exactement clair parce que certaines lois ne sont pas transposées en France non plus. Donc, je ne sais pas comment c'est comptabilisé. Mais en gros, on va dire qu'un tiers de notre corpus législatif aujourd'hui dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de l'énergie sont d'origine européenne. Et ce n'est pas n'importe quel texte. En général, c'est des textes qui sont cadres, en fait, qui fixent des objectifs vraiment cruciaux, quoi. Quand on décide, par exemple, donc là, c'est sur le transport, mais quand on décide d'interdire la vente de véhicules thermiques à 2035, de véhicules thermiques neufs. Bon, ensuite, c'est toute une filière qui s'aligne. Donc, en fait, c'est une loi, mais c'est une loi qui est cruciale, quoi. Donc, c'est à prendre en compte. Alors, pour le coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent et je crois même, j'ai entendu Jean Covici le reprendre sur 90% du corpus qui serait d'origine européenne. Peut-être
Ouais,
pas quand même.
j'ai entendu dire ça, ouais.
Moi, j'ai pas trop élevé. Ouais. Ouais, j'ai pas réussi à vérifier ce chiffre-là et c'est pas la première fois que je l'entends. On me l'a déjà sorti. 30%, 40%, c'est déjà beaucoup, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Peut-être sur le fonctionnement un peu de l'Union européenne, parce que ça, j'ai remarqué que c'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que c'est pas du tout comme en France. D'ailleurs, ça, son fonctionnement propre. Je vais peut-être montrer un
Vas-y,
graphique.
je vais
Ça
montrer ton
aidera à s'y
écran.
retrouver.
Hop, je peux montrer ton écran.
Attends. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là, je suis sur le fameux article Non, 80% des lois françaises ne sont pas imposées par l'Europe, qui est un article de la représentation française de la Commission européenne en France. Donc,
Ouais.
ils ont quand même ressenti le besoin de
Alors,
cerner le sujet.
il y a quelques réactions dans le chat. Guillaume Effer nous dit oui, Janko a dit NIMP et les shifters disent 2/3 et Jacara 2 nous dit j'avais vérifié et vous avez raison, c'est plus proche de 30%. Donc et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent là, ça commence à grimper. Donc
Et oui,
effectivement.
d'ailleurs, oui. C'est plus. Alors, c'est. Je crois que c'est. Donc, dans cet article-là, ils disent 20% en moyenne, et donc effectivement, ça grimpe sur certains sujets. Tu me dis s'il faut que je zoome, Rodolphe, pour que ce soit plus
Ouais,
clair.
peut-être zoom un peu.
Je vais accepter les cookies. Hein, je suis désolée, ça va plus vite.
Ouais.
Et ça me fait rebondir sur le fait que, en fait, effectivement, l'Union européenne n'a que les compétences que les États veulent bien lui attribuer. Et donc, il y a certains sujets sur lesquels elle a été effectivement dotée de fortes compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences exclusives. Et là, en fait, elle est carrément seule à, elle est seule à légiférer au nom de toute l'Union européenne. Parce qu'on considère que si les pays sur ces sujets-là légifèrent de leur côté, on va plus s'y retrouver. Donc c'est typiquement tout ce qui est accord de libre-échange, par exemple. Le commerce international, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Il y a des compétences partagées. Et je dis ça parce qu'il y a des compétences sur lesquelles, finalement, l'Union européenne, on n'en entend pas parler, on n'a pas besoin, parce qu'elle n'a qu'une compétence que très limitée et d'appui. Et typiquement, ces derniers temps, par exemple, on a beaucoup parlé de la défense avec l'Ukraine, mais en fait, c'est un sujet sur lequel l'Europe a une compétence qui reste malgré tout assez limitée. En fait, les États en matière de défense restent profondément souverains. Donc voilà. Donc je voulais faire un rapide passage sur les compétences, mais donc le circuit législatif, il est là. Donc, vu comme ça fait très peur. Mais
Tu
d'ailleurs,
vas
ça se
nous aider à y voir
comprend.
plus clair.
Ouais. Non, c'est juste pour montrer que, parce que c'est vrai qu'on reproche beaucoup à l'Union européenne d'être lointaine, d'être technocratique. C'est vrai que quand on voit ce graphique, on a un peu tenté de donner raison à ses détracteurs. Toutefois, quand on regarde. Donc, en fait, tout est impulsé quand même par les chefs d'État. Finalement, c'est eux qui donnent les grandes lignes. Hein. On le voit, c'est le Conseil européen. À ne pas confondre avec le Conseil de l'UE, c'est très pratique hein, pour que ce soit clair. On a donné des noms extrêmement proches à deux institutions différentes. Le Conseil de l'UE, c'est les ministres, par contre. Et il intervient plus tard dans le processus législatif. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une loi doit passer, en général, les États, les chefs d'État donnent des impulsions, disent maintenant, on veut plus de souveraineté industrielle. Quand Angela Merkel et Macron disent, on veut plus de souveraineté industrielle, la Commission européenne se met en marche. Et imagine soit des règlements, soit des directives pour aller dans ce sens. La Commission européenne, c'est la seule qui a l'initiative législative, c'est la seule qui écrit les lois. Ça fait énormément de peine à beaucoup de gens. Le Parlement européen n'a pas l'initiative. C'est pas comme en France où les députés peuvent faire des propositions de loi. En revanche, une fois que la Commission européenne a écrit cette loi, bah, ils la prennent à leur tour, ils l'amendent. Ajoutent, font un travail classique dessus. De son côté, le Conseil de l'Union européenne fait pareil. Donc, les ministres, en général, du secteur concerné, les 27 ministres de l'énergie ou les 27 ministres du transport, pareil, font leur propre version, amendent, se mettent d'accord. Et après, ils sont censés se mettre d'accord à trois, donc la Commission, le Parlement et le Conseil de l'UE, en trilogue. Dans des réunions qui peuvent durer des jours et des nuits. Mais dans les faits, beaucoup de choses à Bruxelles se passent dans les couloirs, en fait. Et une fois qu'on arrive en plénière ou une fois qu'on arrive au trilogue, les choses ont été en fait négociées avant, quoi.
Ok, je vais t'interrompre parce qu'on a quelques questions. Déjà sur une chose que tu as mentionnée avant, il y a Guillaume FR qui demande, n'y a-t-il pas juste l'Agence européenne de défense pour financer et coordonner des programmes d'armement? Il y a une Agence européenne de défense? Je ne sais pas si tu...
Alors, on est un peu loin de ma zone de confort avec la défense, mais
Ok.
probablement, ouais. Moi, ce que je sais hein, sur la défense, c'est que vraiment les États sont souverains, mais que l'Union européenne a effectivement des compétences particulières dans le sens où elle essaye de coordonner tout le monde. Et donc, à la fois, c'est là où elle n'a pas un rôle évident, c'est qu'à la fois chacun est souverain, mais elle essaye de faire en sorte quand même que ça se coordonne. C'est pas impossible qu'avec la guerre en Ukraine, c'est des choses qui aient bougé. Mais moi, j'ai pas suivi.
Ok, pas de souci. Brumefr nous dit, en plus du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil de l'Europe qui ne fait pas
Ouais.
du tout partie de l'UE.
Non, pas du tout. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est encore autre chose. Je crois qu'il y a 57 pays dans le Conseil de l'Europe, dont je me demande s'il n'y a pas la Russie d'ailleurs. Donc, c'est complètement autre chose.
Ok, mais du coup, ça facilite pas la compréhension de tout ça.
Ah non, non, c'est vrai que c'est... Nous, journalistes, et du coup, vous aussi, enfin, nous, quand on commence à s'intéresser à une loi, les trois institutions qui nous intéressent, c'est la Commission, le Parlement, et on dit le Conseil. On dit même pas Conseil européen ou Conseil de l'UE, c'est Conseil, c'est les ministres, en fait.
Ok, et il y a Tom qui a une question intéressante aussi qui demande comment est-ce que les commissaires sont désignés si c'est eux qui ont l'initiative des lois?
Ouais. Alors, en fait, donc, c'est là où tout s'interconnecte et où moi je trouve que ça manque un peu d'aspect démocratique. Mais donc, je vais répondre à la question, hein, mais je fais un rapide écart. De ces trois institutions, il y en a qu'une qui est élue au suffrage universel direct. C'est le Parlement européen. Donc, on pourrait considérer que c'est quand même pas très démocratique tout ça, et ça s'entend. Toutefois, donc les commissaires européens, donc le ou la présidente de la Commission européenne, en ce moment c'est Ursula von der Leyen, elle est désignée d'abord donc par les chefs d'État, mais elle ne peut pas entrer en fonction tant qu'elle n'a pas été élue ensuite à la majorité au Parlement européen. Donc le Parlement a quand même un droit de veto en gros, hein, le ou la présidente ne lui revient pas. D'ailleurs en 2019, Ursula von der Leyen était passée vraiment de très justesse. Je me demande si elle n'était pas passée à 8 voix près. Enfin, et ça c'est pas très bon pour un président parce que ça le rend moins légitime. Et ensuite donc les commissaires sont, c'est un peu comme constituer un gouvernement. Donc Ursula von der Leyen propose un peu son gouvernement, elle le propose au Conseil européens qui valident ou pas. Il y a 27 commissaires car il y a 27 pays. Et je pense, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais que quand même les postes, les portefeuilles les plus stratégiques sont occupés par les pays les plus puissants. Et ensuite, ces commissaires-là sont auditionnés par le Parlement, qui, pareil, peut mettre un droit de veto s'il n'est pas satisfait. C'était arrivé avec comment s'appelle-t-elle? Sylvie Goulard, une commissaire française qui s'était fait rembarrer. Voilà.
Ok. Ok, donc là on était dans le fonctionnement de tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter des choses?
Bon, voilà, bon, pour dire qu'effectivement, on peut considérer que ça manque un peu de. Ouais, peut-être de transparence, c'est surtout très lent. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aller voter le 9 juin, parce que quand même, le Parlement européen, il gagne en pouvoir d'année en année, quoi. Vraiment, la construction européenne, c'est aussi l'histoire de la prise de pouvoir par le Parlement européen, quoi. Et bah en fait, c'est les seuls sur lesquels nous, électeurs, on a une vraie grosse prise, quoi. Est-ce qu'on parle peut-être de comment ils vont être élus, justement?
On peut. Et du coup, on peut aborder la question des 5% et tout à ce moment-là, parce que je pense que c'est la
Absolument.
marque qui revient souvent. Ouais.
Ouais. Alors, le Parlement européen et nos, enfin, les 700. Alors, actuellement, il y a 705 eurodéputés. Ils vont être 720 après les élections, dont 81 Français élus au suffrage universel direct. Bon, ça, c'est classique. Au scrutin proportionnel. Là, je vais reprendre peut-être le thread parce que moi, j'avais pas eu tous ces détails. Le thread de Nielsen Neerman que tu m'as envoyé. Donc, ils sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne avec un seuil de 5%. Donc, à la proportionnelle, ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que chaque parti a autant de sièges que de voix. Enfin, en gros, si tu as 10% des voix, tu as 10% des sièges. Avec cette petite barrage, ce ticket d'entrée plus ou moins élevé selon les pays, qui est le seuil électoral de 5%. En gros, les listes, les partis peuvent prétendre à des sièges seulement s'ils dépassent un certain nombre de suffrages exprimés. Et en France, donc c'est le plus élevé possible, c'est 5%.
Parce
Mais
que
il y a
ouais,
des
y a un truc
pays.
important qui... Ouais, pardon, t'allais le dire, mais c'est pas la même dans tous les pays.
Ouais, voilà. Il y a des pays qui n'ont pas de seuil du tout. Là-dessus, il y a un article de Check News sur Libé qui est bien et qui montre là, par exemple, que bon, il y a pas mal de pays hein, qui l'ont ce seuil de 5%, mais il y a aussi beaucoup de pays qui n'en ont pas. L'Allemagne, par exemple, les Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni, quand il était encore dans l'Union européenne, ils n'ont pas de seuil. Ça veut dire qu'en fait, une liste qui fait bah, 1% des voix, elle a 1% des sièges, quoi. Donc voilà. Et ouais, tu voulais
Ouais,
rajouter quelque
je
chose
voulais
peut-être.
demander, et y a une justification de ce seuil de 5%, on sait d'où il vient et pourquoi il a été choisi, et c'est pour quoi lutter contre des listes fantaisies, c'est quoi l'idée en fait?
Non, j'ai aucune idée. Et ça, je pense que c'est vraiment chaque pays qui décide lutter contre des listes fantaisistes. En fait, bon, dans les faits, par exemple, nous, là, en France, on a tout un tas de petites listes qui. Quand même, si tu franchis pas, comment dire, par exemple, 1% de 81 sièges, bah, ça fait pas un siège. Donc, enfin, je veux dire, y a quand même une
Ah
élimination
oui,
naturelle, quoi.
vu qu'il y a un nombre fini de députés, il y a
Oui.
de toute manière un seuil, quoi.
Oui, voilà. Enfin, je veux dire, là, il y a certaines petites listes qui ont obtenu 0,05% des voix. Je veux dire, elles pouvaient pas obtenir. Il faut quand même faire un minimum de voix. En plus, je regardais cet après-midi sur, par exemple, typiquement en Allemagne, est-ce que ça donne des candidatures effectivement fantaisistes? Non, en fait. Et puis, enfin, je n'ai pas constaté quoi. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que une fois élus, les eurodéputés vont rejoindre des familles, en fait, parce que. Ça n'a pas de sens d'être non inscrit, enfin on n'a aucun poids. Le Parlement européen, il fonctionne par alliance, beaucoup. Y a 7 familles en tout. Elles sont là. Et par exemple, je regardais les Allemands du Parti Pirate. Enfin, il y a un Allemand. Il y a un eurodéputé du Parti Pirate en Allemagne. Et ben, il est dans le groupe des écologistes et des Verts. Parce que ça n'aurait pas de sens qu'il reste seul. Donc voilà. Donc ce seuil, il est très contesté ben, par les petites listes, évidemment. Je ne sais pas exactement ce qui le motive en France ou pas, quoi. Et le dernier aspect qui était évoqué par Nelson Nierman, c'est la plus forte moyenne. Alors ça, Rodolphe, je ne sais pas si toi, tu as mieux compris que moi. En gros, donc, comme par exemple, si on divise 81 sièges de députés français par à peu près les 7 listes qui devraient franchir les 5%, ça tombe pas juste. Et donc le nombre de sièges restants est redispatché aux partis qui ont eu les plus forts scores, selon un calcul que je ne maîtrise pas et lui non plus,
Oui, je crois pas
visiblement.
qu'il rentrait dans le détail de ça. Mais alors, on va déjà prendre, parce qu'après, il y a un point important qui est la question du vote utile et tout, on pourra en discuter, mais on va déjà prendre quelques questions avant. Déjà, Brumaire-Fer nous disait, par exemple, la Finlande n'a pas beaucoup d'eurodéputés. Pardon, n'a pas beaucoup d'eurodéputés. Et donc, en pratique, c'est comme s'il y avait un seuil qui peut être assez élevé, quoi.
Ah bah oui, mais ça c'est parce que la Finlande n'a pas beaucoup d'habitants non plus. il faut aussi. Je suis en train de descendre car je sais que sur cette page, il y a. En fait, les députés sont au nombre proportionnel plus ou moins au nombre d'habitants dans
D'habitants, ouais.
l'État. Et donc, par exemple, là, on voit que l'Allemagne en a 96. Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
L'Allemagne en a 96.
Ouais. Et la France 79, là ça va passer à 81 en fait. Oui, tiens, je vais même me mettre ici. On a une légère augmentation du nombre d'eurodéputés en 2000. Enfin là, maintenant.
Et du coup, Porzmogar nous dit, voilà, si on applique juste ça, bon là, ils se contredisent, mais ça fait que ça donnerait de toute manière un seuil à un 2 ou un 3. Et quand on regarde, en fait, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de seuil, qui sont des pays plutôt petits. L'Allemagne, c'est un peu l'exception, non? Ah non, Allemagne, Royaume-Uni, quand même, Royaume-Uni.
Ouais, je pense pas. Enfin, je pense pas que la fixation d'un seuil soit, oh, je sais pas, liée à la population. Mais effectivement, là, je vois Malte qui a 6 élus. Bon, ça veut dire qu'il faut faire au moins 15% chacun, quoi,
Ouais,
des voix,
c'est
des
pas
suffrages
rien.
exprimés.
Alors que chez nous, un truc qui fait 5% pourrait avoir un eurodéputé, une opinion majoritaire dans un pays plus petit, il n'atteint pas le Parlement, quoi. Et
Et ce
alors,
que dit, ouais.
y a juste Vacas qui rajoute, à savoir que le gouvernement allemand souhaitait avoir 5%, mais cela a été rejeté parce que contraire à leur constitution.
D'accord. Possiblement, je sais pas du tout. Mais ce que je trouve, enfin ce que relevait Nielsen Nimard, et il a raison, c'est que là où c'est un petit peu raide. C'est qu'en fait, du fait de ce seuil, une liste qui fait 4,99%, enfin, les voix sont littéralement enfin, jetées à la poubelle, en fait. Ça compte pas du tout, quoi. Et si, et alors par contre, ça compte, donc c'est là, j'espère que je ne vais pas me tromper en reprenant son raisonnement, ça compte dans le sens où, en fait, il faut qu'un parti franchisse les 5% de suffrages exprimés. Donc pouvoir avoir des sièges. Sauf que du coup, s'il y a plein de votants pour des petites listes, ça agrandit encore le nombre de suffrages exprimés et du coup, c'est encore plus dur pour chacun des partis d'atteindre ce fameux seuil de 5%. Et du coup, lui, il avait à dire que, et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que c'est un militant EELV qui a fait ce thread, que en gros, voter pour les petites listes, ça va surtout désavantager. Les grosses listes qui sont néanmoins en difficulté, à savoir EELV typiquement. Parce que
Ouais.
c'est vrai que là, il y a une dizaine de listes qui se revendiquent de l'écologie aux élections européennes et certains craignent l'éparpillement des voix écolo, quoi.
Et L'exemple qu'il donnait d'Europe Écologie Les Verts est intéressant parce que ce qu'il disait en gros, c'est que bah, si on est juste en dessous, mettons qu'au lieu de faire 5, ils font 4,99, du coup, ils n'ont aucun eurodéputé alors qu'à
Voilà.
5, ils en auraient eu 4. Et du coup, les 4, ces 4 députés qui auraient été des députés quand même sensibles à l'écologie, hein, ces sièges vont être redistribués parmi les listes qui ont fait plus de 5%. Et donc, ça va être bah, notamment au moins un siège, enfin un siège pour le Rassemblement national. Et donc, voilà.
Oui,
Échouer à
c'est
ce
ça.
seuil-là, et lui, du coup, il a un argument de vote utile qui est bah, si Europe Écologie Les Verts fait moins de 5%, en gros, la coalition écolo perd 4 sièges au détriment
C'est
de ces
ça,
LR5. Enfin, elle récupère peut-être 1 sur les 4 quand même, mais c'était le raisonnement du thread, et je pense que c'est intéressant parce que c'est un peu un effet pervers de ce seuil de 5%, quoi.
Ouais, tout à fait, Et en plus, comme il explique, les sièges restants sont reventilés à la moyenne, à la plus forte moyenne. Ça veut dire que c'est reventilé en priorité au RN, puisque c'est eux qui vont vraisemblablement arriver très en tête des suffrages, quoi. Donc c'est vrai que non seulement ils perdent 4 sièges, mais en plus, ça, d'après son calcul, ça en donne 2 d'office au RN, et ensuite un de plus à chacun des autres groupes, le PS, Renew, LFI et LR. LFI, je ne sais pas s'ils obtiendraient.
En tout cas, c'est intéressant de ce raisonnement pour comprendre les effets de ce seuil qui sont pas négligeables. Ouais.
Non, non, c'est vrai. Et je lisais cet après-midi que en 2019, en plus cette année, on a vraiment le record de listes candidates. On est à 38 listes déposées. Et l'année dernière, en 2019, on était à 28. Et les listes qui n'ont pas atteint 5%, elles ont totalisé quand même quasiment 20% des suffrages. Donc ça fait quasiment 20% des suffrages qui non seulement ne sont pas comptabilisés du tout, mais qui en plus ont eu cet effet de gonfler le nombre de suffrages exprimés et de effectivement compliquer un peu la tâche aux autres partis.
Mais et on a une idée de pourquoi les petites listes, parce qu'il y a des listes qui viennent là-dedans, elles savent qu'elles feront pas 5%. Pourquoi elles se lancent là-dedans? Ça leur donne une publicité? C'est quoi le but?
Clairement. Alors déjà, effectivement, c'est l'occasion de se faire. Il y a beaucoup de listes qu'on appelle même un peu manifestantes ou qui sont là pour aucunement l'intention d'avoir un eurodéputé d'élu. Si c'était le cas, ça les arrangerait même pas vraiment. Mais c'est pour porter un message. Par exemple, cette année, il y a une liste qui s'appelle Free Palestine. Leur but, ce n'est pas du tout d'avoir un eurodéputé, mais c'est de faire parler du conflit israélo-palestinien lors de la campagne. Le parti animaliste, c'est pareil, c'est pour sensibiliser à la cause animale. Je pense pas qu'ils s'attendent à avoir d'eurodéputés. Et puis, j'ai écrit un article là, sur les petites listes écologistes qui paraissent demain. Et c'est vrai qu'au début, j'ai un peu appelé les têtes de liste en leur disant, mais. Éparpillement des voix, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a une liste par exemple qui s'est retirée en disant très clairement le RN est à 33% des intentions de vote, on ne peut pas se maintenir dans ces conditions-là, donc on se retire. Et donc je leur disais qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a plusieurs qui m'ont répondu que face au RN, en fait, la solution, c'est pas forcément, enfin, comment dire, la solution face au RN, c'est pas de laisser moins de choix aux électeurs. Et qu'une démocratie vivante et dynamique, c'est pas une démocratie, enfin c'est pas une démocratie où on supprime le débat d'idées et les options, les alternatives. Et finalement, j'étais un peu sensible à ces arguments-là, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un nombre non négligeable de gens qui aujourd'hui se retrouvent plus du tout dans l'offre politique existante. Et c'est vrai que les élections européennes, au moins ouvrent l'offre, quoi.
Ouais, et alors il y avait une question sur est-ce que deux listes peuvent s'arranger après le vote pour passer au-dessus de 5%?
Non.
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 Guillaume Effer nous signale qu'en 2019, c'était 34 listes.
34?
Ouais, mon
Ah oui, alors
chat
c'est
est
peut-être moi
sans
qui
pitié.
confonds. C'est peut-être moi qui confonds. Il y avait 34 listes, dont 28 qui sont restées en dessous des 5%. C'est
je,
peut-être
je
ça.
lis le chat.
Ouais, non, c'est peut-être moi qui me suis emmêlé les pinceaux, ouais.
Sivin dit Free Palestine, c'est la liste du Parti démocrate musulman qui
Ouais.
apparemment n'a pas déposé de profession de foi.
Peut-être.
Ok. Il y a un chaton sur l'affiche du Parti animaliste.
Ouais, Moi, cela dit, j'étais surprise parce que dans les intentions de vote, attends, j'ai l'onglet d'ouvert quelque part, c'est pas du tout aussi ridicule que ça. Alors, ils sont 1,5 là dans celle-ci, mais cet après-midi, j'en voyais une où ils étaient quasiment à 2. Bon, c'est pas si ridicule.
Ouais, c'est juste dommage que le système ne permette pas de. Parce que tu vois, 2%, en fait, ils auraient le droit à un eurodéputé, quoi.
Ouais.
C'est. Et il y avait une question. Ah oui, il y avait une question que j'ai oubliée. Et quelque part, ça rejoint ce dont on discute ici. Quand tu montrais le fonctionnement de l'Union européenne, tu as dit plusieurs fois que ça pourrait être plus démocratique. Il y avait une question
Ouais.
là-dedans. Voilà. Pourquoi c'est pas démocratique et comment ça pourrait être plus? Donc déjà, ce seuil de 5%, quelque part, c'est un peu une entorse à la démocratie parce qu'il faut atteindre une certaine taille. Et puis, il y a la question aussi du fait que dans ces trois instances, finalement, on n'élit directement que les eurodéputés. C'est surtout ces deux points-là où.
Ouais. Alors sur le fait que là, les 5% ce soit antidémocratique, moi je sais pas, je veux dire, c'est une... oh, quand pour l'élection présidentielle, on demande aux candidats d'avoir un certain nombre de signatures, tu vois, enfin, je pense aussi qu'à un moment donné, il faut, je veux dire, si les gens ils votent pas pour toi, ils votent pas pour toi, quoi, tu vois. Peut-être que si tu récoltes moins de 5% des suffrages universels, ce que tu as à proposer n'intéresse pas tant que ça les électeurs non plus, quoi. Enfin, tu vois.
Ok.
Après, peut-être qu'on pourrait baisser le seuil, mais enfin, moi, je trouve ça un peu logique d'en instaurer un quand même.
Ok.
Bon. Enfin, et encore, que je me retrouve à me prononcer pour un truc sur lequel j'avais pas d'avis finalement. Mais disons que j'ai pas d'avis sur le seuil, mais de là à considérer qu'il est antidémocratique, je suis pas forcément d'accord.
Ok.
Et la deuxième question,
Et
ah oui.
l'autre aspect, c'était voilà, dans ce fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui, quand tu disais que ça pourrait être plus démocratique, tu faisais référence à quoi du coup? Au fait qu'on n'élit pas les commissaires, que ce soit les ministres qui président et qu'on ne les ait pas élus, ce genre de
Ouais,
choses?
le fait que sur trois institutions qui sont co-législatrices. J'ai pas forcément les compétences pour savoir ce qu'il faudrait arranger. Parce qu'en même temps, je me disais, nous non plus, on n'élit pas nos ministres. Tu vois, nos chefs nos chefs d'État et de gouvernement, quelque part, ils sont pas élus par les électeurs européens, mais ils sont arrivés démocratiquement au pouvoir chacun chez eux. J'ai pas de, je sais pas, en fait, j'entends moi l'argument que ça manque de démocratie, mais je saurais pas, parce que c'est vrai que c'est très lourd quand même, hein. Je parlais avec Pierre Larouturou, qui est un eurodéputé, hier, qui me disait que bon, en fait, là, il y a une inertie qui devient intenable, en fait. Et lui, par exemple, pour la contourner, ce qu'il proposait, c'était des référendums pan-européens. Mais en fait, quand on y pense, mais c'est tellement lourd à organiser, on ne pourrait pas légiférer comme ça, je pense.
Et ouais. Je voulais ajouter un truc et j'ai oublié.
Une des grosses critiques qu'on entend beaucoup, enfin qui est pas mal revenue, ben là avec l'Ukraine et aussi la crise de l'énergie, c'est en fait c'est aussi la lenteur des processus européens, que moi je pourrais contrebalancer par d'autres arguments, parce que là on a détricoté la PAC à une vitesse record, donc quand on veut reculer, on y arrive aussi à aller vite. Mais c'est vrai que tout ça. Entre le moment où une loi elle est, disons, souhaitée par le Conseil européen et où elle est définitivement validée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE, il se passe quoi, 2 ans, quoi. Et ensuite, après, il faut encore 2 ans pour que ce soit transposé dans les États membres quand c'est une directive. Donc c'est long, quoi.
Et Guillaume Eiffert demandait pourquoi pas des listes transeuropéennes. Donc je suis pas
Ouais.
exactement sûr de ce qu'il veut dire.
Bah, c'est vrai que ça c'est, je pense, c'est un manque d'intégration de l'Union européenne. En fait, on vote chacun dans nos pays respectifs pour nos partis nationaux. Moi, par exemple, si j'ai envie de voter pour Die Linke en Allemagne, je peux pas. Alors qu'ils vont siéger, par exemple, avec LFI dans le même groupe, mais je ne peux pas élire cette liste-là. Et effectivement, y a certaines listes qui existent en France, qui n'existent pas ailleurs. Et donc, c'est vrai que ça pourrait probablement exister. Moi, je pense que ça, c'est un des révélateurs que aujourd'hui, la politique, comment dire, la politique européenne, elle est perçue, y compris par les gens qui la font, comme un regroupement de politique nationale.
Ok, et après nos listes se regroupent dans des partis européens et
Ouais.
l'idée, ça serait quoi de, tu t'imagines qu'on pourrait voter directement pour ces partis européens ou t'imagines que en tant
Ouais,
qu'européen,
voilà.
tu pourrais voter pour d'autres listes nationales?
Alors, oui, alors c'est vrai que du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux aussi à mon tour. Disons que moi, en tant que Française, je ne peux voter que pour les partis. Actuellement, chaque pays organise des élections avec ses partis. Et donc, moi, en tant que Française, je peux voter pour LFI, mais je ne peux pas voter pour un parti qui serait allemand, quoi, par exemple. Mais effectivement, on pourrait imaginer un autre fonctionnement complètement différent où en fait on n'aurait que ces familles-là là, que je suis en train de montrer sur mon écran.
Attends, je remonte mon écran, pardon. Hop.
Ça, c'est la composition actuelle du Parlement européen. Et donc en fait, les partis nationaux sont regroupés dans des familles européennes par affinité en fait. Mais du coup, c'est des noms qu'on ne connaît pas nous en France. Par exemple, le SND, les sociodémocrates. En fait, c'est le PS qui est dedans. Mais donc, nous, en France, on n'entend jamais, enfin, on ne connaît pas ni cette famille, parce qu'en fait, elle est à peine représentée. Si tu regardes le programme de Glucksmann, là, je sais pas, je sais même pas si c'est écrit sur son programme. Il se présente avant tout en tant que candidat du PS. Et donc, effectivement. Ça, c'est à mon avis, ça c'est assez représentatif. Ouais, j'ai déjà dit, mais c'est assez représentatif du fait que y a, c'est un peu mais de toute façon, les pays aussi le font en fait. Les gens perçoivent, les gens veulent mettre dans l'Europe que ce qui les arrange eux en tant que Français ou en tant qu'Allemand. Il n'y a pas vraiment encore de mentalité européenne, quoi.
Intéressant. Et Guillaume FR nous dit sur l'affiche de Glucksmann, il n'y a ni rose ni couleur rouge. L'affiche est orange et jaune. Il
Oui,
assume
c'est
pas
vrai.
trop son... il assume pas
Ouais,
trop sa
ouais.
couleur.
Oui, alors cela dit, c'est vrai que j'ai peut-être pris le mauvais exemple, ou j'ai même pris, à mon avis, le pire exemple possible, parce que. enfin, voilà, tout ça pour dire que. Ouais, si on prend. Alors bon, les écolos aussi, je crois que ça doit être plus affiché, par exemple, qui a entendu parler de ID, le groupe dont fait partie le Rassemblement National
Ouais, est-ce que tu pourrais nous
Personne.
dire, du coup, nos listes nationales, elles atterrissent dans quoi dans ces groupes les plus grosses là?
Ah oui,
Tu saurais?
donc, de gauche à droite. On a là la gauche radicale. Donc là, on va avoir LFI qui siège actuellement dedans. Je crois qu'ils ont 4 eurodéputés. Ici, donc les sociodémocrates, ça va être le PS, surtout. C'est le deuxième groupe au Parlement européen, donc qui pèse quand même beaucoup. Les EELV se retrouvent avec les écologistes.
Après, Europe
72.
Écologie Les Verts, ça fait peut-être partie des partis qui annoncent le plus cette ambition
Ouais.
européenne quand même.
Ah, mais de toute façon, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui est donc profondément européen et même en fait les élections européennes, c'est leur élection. Parce que de par la sociologie aussi des gens qui votent. C'est une élection qui les favorise énormément. Et c'est pour ça, par exemple, qu'ils n'ont certainement pas voulu reconduire une alliance comme la NUPES au niveau européen. Parce que vraiment, vous voyez, ils sont beaucoup plus puissants que LFI, par exemple, au Parlement européen. Et donc, oui, Europe Écologie Les Verts, ils sont très Europe, quoi.
Alors on me dit que j'ai tort parce qu'ils ont changé de nom et s'appellent les écologistes maintenant.
C'est vrai, mais je pense que ça enlève rien à leurs racines profondes. Mais je
Et...
crois qu'ils sont en procès sur leur nom avec un autre parti qui s'appelle les écologistes, justement. Donc,
Ah.
moi, je continue de dire EELV.
Et ils sont plutôt en difficulté par contre cette année
Ouais.
par
En
rapport
fait,
notamment à la
ouais.
dernière fois.
Ouais, il décroche énormément. Bah, c'est le backlash auquel on assiste aussi en ce moment en France. Enfin, en fait, les dernières. Ah, j'arrête pas de dire l'année dernière. En 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait encore des marches climat qui atteignaient parfois le million de manifestants. Il y avait un vrai. On ne s'est pas rendu compte à l'époque de la chance qu'on avait, mais il y avait un vrai élan pour le climat. Et ça s'est vu dans les urnes avec. Les écologistes qui ont obtenu 72 sièges, mais aussi parce qu'en fait tous les autres partis ont été forcés de verdir leur programme. Bah, c'est pour ça que Ursula von der Leyen a proposé le Green Deal. Il y avait une vraie dynamique qu'a portée, mais qui malheureusement s'est essoufflée assez vite. Et surtout là, dans les derniers mois, avec la crise agricole, il y a eu un backlash très sévère. Et en fait, les écologistes en pâtissent énormément. Enfin, là, en ce moment, ils se prennent. C'est vraiment les décroissants qu'ont voulu tuer les agriculteurs, quoi. Donc, c'est dur pour eux, quoi. Il n'y a pas qu'eux qui vont décrocher, cela dit. Il y a Renew. Je crois que Renew, ce que je regardais cet après-midi, on s'attend à ce qu'ils perdent, ouais, 20 sièges. Donc, ils vont passer en dessous du seuil des 100 eurodéputés.
Et du coup, Renew, alors déjà, Renew, c'est le parti de qui?
Alors,
Et
pardon, ouais.
ensuite, attends, il y avait une autre question. Bon, déjà, tu peux me répondre à ça, et je te retrouve une autre question.
Renew, c'est Renaissance, hein. C'est les alliés d'Emmanuel Macron. C'est un groupe qui existe depuis 2019, quoi, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, sur les 102 députés, eurodéputés Renew, je ne sais plus combien il y a de Français, mais en gros, les Français, ils sont là, quoi. Ils sont chez Renew. La France est le groupe le plus puissant chez Renew. Et c'est ce qu'on appelle les faiseurs de rois. Parce qu'en fait, au Parlement européen, il n'y a aucune des familles qui pèse plus de 25% des voix. Même la plus puissante, c'est le PPE. C'est la droite. C'est là où siège LR. Et en fait, ils ne peuvent pas gouverner seuls. Donc, il faut toujours qu'il y ait alliance. Et donc, c'est quasiment. Enfin, là, au cours du dernier mandat, ce n'était pas possible de faire sans Renew, quoi. Donc, ils ont vraiment eu une influence très forte. Et voilà. Je me demande si je suis pas un peu partie trop loin. Je me rappelle plus de ta question.
Non, c'était très très bien.
Yep.
Il y avait une autre question, alors on pourra continuer avec l'extrême droite. Il y avait une autre question par contre sur comment les partis se regroupent entre eux. C'est Valdon88 qui demande. Je veux parler du fonctionnement, pardon. Comme par exemple le parti de Orban en Hongrie, je crois qu'il a été évincé du PPE. Et du coup, ne font partie d'aucun groupe et ne sont pas allés automatiquement dans un autre. Est-ce qu'il faut que le regroupement de partis valide l'intégration des députés, etc. Voilà. Comment ils se rassemblent entre eux,
Ah
ces listes nationales?
ouais, effectivement, le FIDES, ils sont là maintenant. En fait, bah, ça va se passer là, après les élections. Il va y avoir, enfin, comment dire, ça va s'agréger, les partis se recrutent un peu les uns les autres, les familles s'attirent ou pas d'ailleurs, parce que certains bah, ne veulent pas être ensemble, quoi. Mais voilà, par exemple, je reprends mon exemple de mon héros eurodéputé du Parti Pirate. Je pense que quand il a été élu, il a été dragué un peu par toute la gauche. Et c'est lui qui a choisi dans quelle famille il voulait se mettre. Après, ça ne les force pas à avoir une discipline de vote absolument parfaite. Mais bon, c'est vrai que quand même, ça encourage quand même un peu.
Et donc il nous reste des partis d'extrême droite.
Oui. Alors, donc oui, donc le PPE, j'ai déjà dit, le PPE, c'est pas compliqué. Ils ont toujours été le premier parti depuis l'existence du Parlement européen. C'est toujours eux. Ici, on a donc ECR. ECR, c'est là où, en fait, c'est là où siègent les quelques eurodéputés Reconquête. Je maîtrise un petit peu moins, mais en gros, on a ECR et ID. Qui sont les deux partis d'extrême droite. ID, c'est là où il y a le RN et ECR, ce serait plutôt là où il y a Reconquête. Vu des sujets climat qui, moi, m'intéressent, c'est des partis qui sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qui votent contre le climat, contre le social, contre à peu près tout. Mais ils ont des. Parce que ce qu'on pourrait craindre, c'est qu'ils ne fassent plus qu'un seul et même parti. Et d'ailleurs, parce que là, il deviendrait par contre une très grosse famille, quoi. Je pense qu'il passerait même devant Renew après la prochaine élection, là. Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'ils ont des grosses divergences sur d'autres sujets. Par exemple, là, pendant la guerre en Ukraine, ECR, c'est un parti où il y a beaucoup, beaucoup de Polonais. Et les Polonais sont très anti-russes, en tout cas ces Polonais-là. Et contrairement à ID avec le RN qui serait plutôt pro-russe, quoi. Donc, ils ont des vraies lignes de fracture. Sans cesse, on parle de l'union de l'extrême droite, comme on parle de l'union de la gauche, peut-être. Et elle vient pas pour l'instant.
Ok. Ok. Est-ce que tu pourrais tourner un poil ta caméra? Comme ça, tu seras plus souvent
Ah oui,
dans le
pardon.
champ.
Je n'avais pas remarqué que je partais de l'autre côté.
C'est pas grave. Je
Mieux.
ne sais pas régler ça à la volée en vrai.
Ouais.
Tom dit, ça changerait quoi qu'il soit regroupé à l'extrême droite, de toute façon, s'il vote essentiellement la même chose? Il y a des grosses différences de vote ou entre ces deux partis d'extrême droite?
Bah, comme je disais, sur certains sujets, oui, il y a des grosses
Ok.
différences. Par exemple, je sais que le RN, quand il a fallu voter des embargos sur la Russie, ce genre de choses, ils ont voté contre, alors que CR a voté pour. Après, c'est vrai que sur les sujets climat, on s'y retrouve, enfin, c'est pareil, quoi. Après, il y a... Bon, moi, je les connais pas très bien, ces partis-là, parce que pour être honnête, c'est des députés qui travaillent pas. Moi, je les vois pas, je les interviewe pas. Mais de ce que j'ai lu, et ça pose. Je pense que c'est même en termes de. Comment dire, de leur. Parce qu'en fait, donc, parce qu'on a parlé des commissaires européens, mais il y a aussi les commissions au sein du Parlement, qui, elles, sont réparties aussi en fonction de la puissance des partis. En gros, quand un parti a fait un fort score aux élections européennes, il a un peu comme des points qui lui permet d'acheter un peu la commission qu'il veut, quoi. Et si je ne me trompe pas, ID, je crois, y a, si je me trompe, ouais, y a, en tout cas, il y a un cordon sanitaire qui fait que ces partis-là, ils n'ont pas le droit à des commissions pour l'instant,
Donc,
alors qu'ils ont des scores élevés.
au niveau européen, il y a un cordon sanitaire pour l'extrême droite qu'on n'a pas, nous, en France. On n'a pas ça au niveau national.
Je ne crois pas.
Donc, ça veut dire que des eurodéputés d'extrême droite peuvent pas avoir des postes importants de type commissaire, etc. Ils sont
Non.
quasi
Je
à l'écart
crois,
de ça.
ouais, en tout cas, pas idée. Je crois que ECR sont considérés comme un petit peu plus fréquentables. Et donc, je crois qu'ils ont quelques personnes qui sont dans des commissions. Mais idée, ils sont vraiment considérés comme infréquentables. Hein. Là, ils viennent de sortir l'AFD, par exemple, l'AFD allemande, pour des propos. Bon, je sais pas si c'est du négationnisme, enfin, ils ont pas. Bref, mais en fait, enfin, c'est lourd, quoi. Chez ID, ils ont vraiment des personnalités.
Peu recommandable.
Négationniste, ouais. Et donc, il y a un cordon, pour l'instant, il y a un cordon sanitaire. Après, s'ils venaient à se réunir, bah, c'est toujours pareil. Enfin, au bout d'un moment, je pense aussi que quand ils incarnent quoi, 20% de l'électorat ou 30, bon, enfin, voilà quoi. Pas
Ok.
évident.
Ok. Non, c'est intéressant de voir ces différences de fonctionnement. Et on nous
Là,
dit
ce
dans
que
le
je
chat
projette,
que nous, on a
ouais.
des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui viennent du RN, donc non, pas de
Ouais,
cordon
voilà, ouais, non, il n'y a
sanitaire.
pas. Bah, c'est-à-dire qu'une fois, enfin, c'est vrai que moi, une fois qu'ils sont élus, bon, c'est pas simple non plus de les exclure des. Mais alors, c'est marrant parce que donc je lisais un article sur le sujet cet après-midi. En fait, ils s'en servent en fait parce que donc du coup, par exemple, là, Bardella, on l'a souvent entendu dire. Alors, on fait rien au Parlement, mais c'est parce qu'on nous laisse rien faire. Et quand ça l'arrange, il dit oui, mais nous, au moins, comme ça, en fait, on participe pas à cette mascarade. Enfin, il le revendique aussi, quoi. Donc, enfin, bon, quand ça les arrange, quoi. Et voilà. Ce que j'affiche sur mon écran, là, c'est les projections pour post-élection.
Ça
Donc,
se droitise.
on verrait que ça se droitise. Et c'est vrai que là, on l'a vu sur le Green Deal. En fait, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait un vrai élan vert en début de mandat. Et la droite du PPE, tant bien que mal, même si c'est vrai que ça a été dur dès le début, hein, a soutenu des législations puissantes, quoi, sur l'environnement et tout ça. Et en fin de mandat, en fait, il faisait alliance avec l'extrême droite pour faire tomber des textes, quoi. Et si ça, si l'extrême droite se renforce, la question c'est est-ce qu'ils vont continuer ces alliances-là, quoi. Et puis même si l'extrême droite est plus forte, ça veut dire que le ou la présidente du Parlement européen, pour se faire élire au Parlement européen, il va falloir qu'elle propose un programme plus à droite, quoi.
Ouais, et ça évolue pas dans le bon sens, hein.
Non, 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 bah là en ce moment on est en plein backlash, hein. Après, bon, c'est vrai que là on est à 4 jours des élections, 5 jours, ça se précise de plus en plus, mais parce que là, y a quelques semaines encore, on nous annonçait un vrai raz-de-marée, hein. Enfin, on nous annonçait que l'extrême droite allait prendre la troisième place à la place de Renew, tout ça. Bon, là, d'après ce que disent les dernières projections, c'est pas encore exactement le cas. On
Ça
n'est
joue
pas
pas
loin quand même,
grand-chose.
il y a 2 sièges d'écart. En fait, en France, nous, on va envoyer c'est nous les Français qu'envoyons la plus grosse délégation d'extrême droite, de députés d'extrême droite, mais c'est pas le cas de tous nos voisins.
Ouais, il y a Bruno qui dit je vis en Italie, la Ligue d'Oanor a fait campagne contre l'UE en mode non aux voitures électriques, non à la farine d'insectes.
Alors,
Genre
la
le mec
farine
dit OK.
d'insecte, j'ai pas la référence.
Ah, bah c'est les écolos qui veulent qu'on arrête de manger de la viande et qui commencent à donner de la farine d'insectes aux enfants et tout, tu sais, c'est dans ces
Ah,
théories un peu.
c'est une grosse fake news qui circule. Alors,
Ouais.
sur les voitures électriques, j'en profite pour rebondir parce que c'est vrai que ça fait partie des gros sujets qui sont encore. En fait, ça a été voté, mais dans beaucoup de directives européennes, il y a des clauses de revoyure. Qui sont, enfin c'est classique quoi, il y a souvent des clauses de revoyure et qui sont censées aller dans le sens d'une augmentation de l'ambition. Et en fait là, la droite et l'extrême droite ont promis que quand la clause de revoyure va être activée, ça va être l'inverse, ils veulent retarder voire supprimer complètement l'interdiction de vente des véhicules neufs à 2035. Il y a plusieurs textes comme ça où on a un peu peur que la clause de revoyure soit utilisée dans un autre sens que celui prévu initialement, quoi.
Alors, j'ai plusieurs questions sur un petit parti qui s'appelle Equinox. Je sais pas si tu as déjà
Ouais.
entendu parler, parce que j'en ai sur le Discord. Et
Ouais,
donc
ouais,
on me
ouais.
demande, est-ce qu'on en a déjà parlé? Est-ce que tu veux en toucher quelques mots? Est-ce que je sais pas.
Ouais, je peux. Ben, comme je disais, j'ai un article qui sort demain sur les petites listes écolo. Et donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Marine Chollet sur le sujet. Ben, Equinox, c'est un petit parti qui a été créé il y a 3 ans, je crois. À la base, c'était un mouvement de polytechniciens, plus ou moins bifurqueurs, qui ne se retrouvaient pas. Dans l'offre politique actuelle. Et donc, de ce qu'elle me racontait, Marine Chollet, eux, par contre, ils sont pas là pour faire de la candidature de circonstance, comme ils disent, même s'ils vont probablement pas passer les 5% cette fois-ci, ils sont vraiment dans une optique de devenir un parti de gouvernement à plus ou moins longue échéance. En l'écoutant, je suis bien obligée de dire que j'ai quand même eu l'impression d'écouter Jean Covici dans le texte. Donc très science, voilà, un discours basé sur la science. On peut le saluer d'ailleurs. Et elle tapait un peu sur les écologistes en disant que être contre le nucléaire, c'est avoir renoncé à la lutte contre le changement climatique. Voilà.
Et alors Guillaume FR dit attention, je crois que Equinox n'est pas endorsed par les shifters etc. Il
Non,
n'y a
non,
pas de
non, non, non.
soutien.
Non, non, il n'y a pas.
Et d'ailleurs, ça pose une question sur Europe Écologie Les Verts et le nucléaire. J'ai entendu plusieurs fois qu'ils ont une position très forte sur le nucléaire qui n'est plus
Ouais.
représentative de leur électorat. Je sais pas si tu sais quelque chose là-dessus.
Ouais, c'est
Est-ce que
vrai.
c'est
Ouais.
vrai? Mais du coup, pourquoi ils tiennent cette position? Ça paraît. C'est quoi? C'est une différence entre les gens qui sont à la tête du parti et leur électorat?
Alors, ouais, j'ai lu plusieurs choses là-dessus. Après, je pense que c'est difficile Moi, je sais pas dans quelle mesure on peut quantifier ça. Je pense quand même que quand on est chez EELV, on est anti-nucléaire. Enfin, quand même, je suis pas tout à fait sûre
D'accord.
qu'il y ait une décorrélation entre la base militante et les dirigeants sur ça. Par contre, c'est vrai que moi, face à un truc que j'ai constaté là avec mon article sur les petites listes écologistes, il y en a beaucoup qui, du coup, effectivement, se distinguent de EELV pour ça. C'est identitaire chez eux. Enfin, Europe Écologie Les Verts est née avec le combat anti-nucléaire avant même de naître avec le combat anti-CO2, on va dire quoi. Et à la base, c'était plus, comment dire? C'était plus, alors c'était le nucléaire en tant qu'énergie, bien sûr, mais pas seulement. C'était aussi le nucléaire en tant que, comment dire? Le nucléaire, c'est régalien, c'est l'État, c'est même militaire à la base.
Ouais.
Et donc, ils étaient surtout opposés à ça en premier lieu. Est-ce qu'un jour ils bougeront? Je sais pas. Alors, ils ont un discours qui s'assouplit quand même énormément
Ouais,
ces derniers
c'est sûr. Sur le
temps.
nucléaire existant, notamment.
Ouais. Il n'y a pas que même Greenpeace. Maintenant, on les entend de plus en plus souvent dire on n'est plus pour la fermeture de centrales nucléaires si ça doit entraîner une augmentation des émissions de CO2 au final. Donc, voilà, je pense que tout le monde revient un peu. Sur les discours beaucoup plus, enfin voilà, il y a quelques années encore, c'était beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus intransigeants là-dessus, quoi.
Et, mais moi j'étais assez surpris, notamment j'ai écouté pour être un peu préparé le débat organisé par le Shift là, qui s'exprimait vraiment que sur des questions d'écologie. Et en fait, cette position sur le nucléaire qui écologiquement n'est pas si facile à défendre, je pense, ça laisse une ouverture à l'extrême droite et la droite qui n'ont fait que les attaquer là-dessus. Et du coup.
Ouais.
L'extrême droite, par exemple, va avoir un discours de bah voilà, sur le nucléaire, ils ont raconté n'importe quoi, et du coup, sur les voitures électriques, ça va être la même chose. Et tu vois, j'ai l'impression que ça laisse une faille un petit peu, et ils s'engouffrent dedans. Alors, après, j'ai aussi été choqué dans ce débat. L'extrême droite raconte vraiment n'importe quoi. Je sais plus, c'était pas Bardella qui était là, j'ai oublié. Tanguy, non, monsieur
Tanguy,
le.
ouais, Jean-Philippe Tanguy qui était là, oui, bah ouais, pas
Et
simple.
c'est incroyable, c'est même plus des approximations, c'est sur l'écologie, c'est un
Ah
truc de
bah
fou. Et François-Xavier Bellamy, il y avait aussi des approximations, et vraiment, tu sens que l'écologie
ils n'ont pas
est
besoin de dire
pas.
la vérité en fait, hein, donc
C'est ça, ouais, c'est ça.
c'est
Mais
terrible.
du coup, il y a ce truc un peu facile de l'attaque sur le nucléaire qui peut
Ouais.
parler à certains, et ouais.
Ouais. C'est vrai que c'est pas évident parce que à gauche, enfin je dirais les filles aussi sont pas mal contre le nucléaire.
Ouais.
C'est pas évident. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai sujet. Equinox l'incarne, effectivement, des gens qui se disent écologistes et pro-nucléaire.
Ouais.
Et je sais pas trop ce qu'il leur reste comme. Enfin, c'est pas évident, ouais. C'est pas simple.
Bah, Glucksmann est moins anti-nucléaire, je pense. Et sur
Oui,
l'écologie,
mais
les.
est-il. Ouais.
Ah, on peut avoir.
Bon, je vais pas m'aventurer sur ce sujet, mais.
Ah,
Quoi que
ok.
son programme, cet après-midi, j'ai fait un simulateur de vote. Je retrouve plus le nom. Il faudrait que j'ouvre Instagram pour vous le retrouver, mais j'ai pas envie de le montrer mon Instagram. J'ai fait un simulateur de vote. Bon, je suis très sceptique, c'est de ce genre d'outil d'habitude, mais et j'ai eu place publique en premier.
Ouais.
Bon, ce qui m'a fait.
Alors.
Leur programme est vraiment pas mal, apparemment, au niveau écologie.
Ouais, moi j'ai pas épluché tous les trucs, j'ai regardé un petit peu, ça m'a pas choqué. Et j'avais vu passer sur Twitter, je crois, des notes données par Bloom, qui
Ouais.
mettaient de mémoire, hein, 20 Europe Écologie Les Verts, 19,9 à LFI et 19,8 à Place Publique, et puis genre 12 à Macron, je crois, et 5 à l'extrême droite, droite, extrême droite. Et du coup, ouais, j'ai quand même cette impression que sur des sujets environnementaux, il y a des différences, mais j'ai pas. Enfin, comment dire. Si je dois choisir entre les trois, je pense pas que c'est sur l'écologie qu'il y a le plus de différences. Il y a d'autres choses où ils se différencient davantage, je pense.
Oui, bah ça c'est ouais, c'est assez net en effet. Ouais. Bah, sur un des sujets sur lesquels, en tout cas par exemple entre LFI Europe Écologie Les Verts, moi je vois une grosse différence, c'est sur leur rapport à l'Europe. LFI, ils ont encore un discours qui s'atténue de plus en plus, mais ils ont un discours pas très europhile hein, quand même.
Ouais.
Contrairement à Europe Écologie Les Verts, qui est vraiment pour plus d'intégration, plus de.
Alors, Génépine m'a mis sur LinkedIn le merci Bloom. Et du coup, alors effectivement, 20 sur 20, ELV, France Insoumise 19,9, Raphaël Glucksmann 19,8. Ah, j'étais méchant avec les macronistes. Valérie Allier, ils ont mis 14,6. Et après, 5,1 à François-Xavier Bellamy et 3,9 à Jordan
Ouais, ça
Bardella.
c'est. Bah, j'invite à ceux qui nous écoutent là. On est en train de terminer sur Vert toute une série où on a fait non pas, enfin, on a aussi fait l'analyse des programmes, mais on a aussi fait l'analyse du bilan en fait de chacun des partis. Et c'est vrai que déjà la lecture des choses est très très différente de ce qui se passe en France. Et par exemple, moi j'ai constaté que Renew, ils ont eu une note honorable à la fois chez Blum, mais l'ORAC aussi leur a mis une bonne note, enfin plusieurs. Et en fait, c'est vrai que c'est le cas, ils ont été assez moteurs. Pascal Canfin, déjà un choix important qu'ils ont fait, et ça c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les partis, en fonction de leur. De leur voix, enfin, choisissent les commissions qui les intéressent. Et donc, les partis les plus puissants vont tout de suite choisir budget, finances, tout ça. Et Renew, ils ont choisi la commission environnement, par exemple, avec Pascal Canfin. Et ça fait que pendant le mandat qui s'est écoulé, là, les 70 textes du Green Deal, Pascal Canfin, il les a. Il a vraiment énormément travaillé. Il est considéré comme vraiment un des architectes du Green Deal. Pour ça, quoi. Sur certains textes où vraiment il y avait dissension, les Français sont vraiment allés récupérer les autres de Renew qui voulaient voter contre certains textes pour les convaincre et tout. Enfin, c'est pas comme en France où, où ils auraient plutôt été à la traîne au sein du Parlement européen. Renew, ils ont été assez moteur, quoi, je trouve. Et inversement, enfin non, pas inversement, mais par exemple, LR, ils étaient pires que leur propre groupe. Ils ont voté très, très conservatiste tout le temps. Et surtout, ils ont voté. On sentait que c'était des votes, en fait, en fonction de considérations nationales, quoi. Et c'est totalement décorrélé. Et puis, alors vraiment, ils ont des eurodéputés qui travaillent pas, mais pas, quoi. Nadine Morano, Brice Hortefeux, c'est. Ça, ils font rien en fait.
Et alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent en retard. Gloine dit par contre l'Europe c'est différent de l'Union européenne, la différence sémantique me semble importante. Je vais essayer de faire attention, je pense que c'est moi qui tombe dans ce genre d'amalgame. Et ouais, tu as mentionné peut-être un truc qui mérite une discussion un peu plus approfondie, qui est cette question du Green Deal et un peu de parler de ce qui a pu être fait pour l'écologie pendant la. Pendant la précédente, on dit quoi? Mandature? Non, on dit quoi?
Ouais, le mandat qui se termine là.
Parce qu'il y a quand même eu des choses assez fortes sur l'écologie quand même au niveau européen.
Ouais, non, ça a vraiment bien assez, ouais, ça a bien travaillé. Ça s'est essoufflé assez vite, malheureusement. En fait, ce qui s'est passé, je racontais tout à l'heure, c'est que vraiment en début de mandat, enfin le fort score des Verts a marqué tout le monde et tout le monde s'est dit qu'il fallait verdir son programme et tout. Assez rapidement, Ursula von der Leyen a proposé le Green Deal. Donc, le Green Deal, c'est un projet, en fait, le Green Deal. C'est de mettre l'Europe sur la voie de la neutralité carbone et avant ça, de diminuer nos émissions de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Et donc, ça s'est traduit par soit des nouvelles lois, soit la reprise de certaines lois pour augmenter
Les ambitions.
Les ambitions qu'on s'était fixées. Bah, par exemple, à la base, on devait réduire que de 40% nos émissions de gaz à effet de serre, puis finalement, on est passé à moins 55%. Donc, on a fait ça sur plein de sujets. Au final, il y a quasiment 70 textes qui ont été soit créés toutes pièces, soit révisés dans quasiment tous les secteurs. En fait, il y a deux secteurs, enfin moi je vois deux secteurs qui ont été épargnés entre guillemets par cette vraie vague, l'agriculture. Là, ça a coincé quasiment tout le temps, à chaque fois. Et on a des textes qui sont soit pas passés, soit en train d'être, qui sont en situation compliquée. On a même reculé sur la PAC là en dernière minute. C'est pas vraiment une surprise non plus, hein, mais c'est vrai qu'on a reculé très fort. Et il y a un autre sujet sur lequel, là, en fait, c'est un peu l'impensé de la politique européenne, c'est le commerce international. Les accords de libre-échange, en fait, typiquement. Ça, c'est un sujet sur lequel, en fait, la Commission européenne donc, a une compétence exclusive sur ce sujet-là. Et en fait, il y a des gens qui me racontent que la DG Comp, la DG Concurrence, c'est vraiment, c'est un peu un état dans l'état, ils font leur truc, ils ont une vision du monde, c'est il faut inscrire l'Union européenne dans le commerce international, parce qu'en fait, leur idée, c'est que la croissance, maintenant, elle va se faire dans toutes les autres régions émergentes, quoi, en tout cas pas en Europe, et que, en fait, il faut que les entreprises européennes aillent faire du commerce là-bas. Et donc, ils signent des accords de libre-échange à tour de bras. Et vraiment, le climat, enfin, le Green Deal ne les a pas du tout touchés. Ou très, très peu. L'accord qui vient d'être signé avec la Nouvelle-Zélande, soi-disant, intègre l'accord de Paris. Bon. And so what?
Et donc Fit for 55, il y a la question dans le chat, là, c'est ce dont tu as parlé. C'est en fait, on doit
Ouais.
réduire en 2030 de 55% les émissions par rapport à 90. Et l'ambition
Ouais, c'est
précédente,
ça.
c'était de moins 40%.
Ouais. En fait, le Fit for 55, c'est pour aller jusqu'à 2030. Et après, il faudra qu'on aille encore plus loin. Là, on parle de moins 90% d'ici 2040, si on veut réussir à être à zéro d'émissions nettes en 2050. Et
Et
ça, c'est tout ça, ça va jouer au mandat qui vient. Et c'est pas gagné, quoi.
d'ailleurs, la France a... le gouvernement a un peu de mal à réviser sa stratégie nationale bas carbone en intégrant ce 55%. Hein. Ça coince quand même depuis quelque temps. Hein. C'est
Ouais.
un sacré objectif. Hein,
Alors,
que...
nous, notre gros problème, parce que ça, les moins 55%, j'arrive plus à me rappeler si on a fini par le mettre dans un texte ou pas, parce que comme on a eu une loi qui a été présentée en Conseil des ministres et puis finalement qui a disparu, donc c'est vrai qu'on l'a toujours pas dans notre corpus législatif. Un truc qui nous pose énormément de problèmes à nous, la France, c'est les obligations d'énergie renouvelable.
Ah oui.
Alors, ils veulent pas les mettre parce qu'on est en retard, on n'a toujours pas atteint l'objectif de 2020 et on n'est pas du tout parti pour atteindre celui de 2030 qui est de 42,5% de la production. Attention, parce que j'ai senti qu'on avait des gens attentifs qui nous écoutaient. Je crois que c'est la production d'énergie. Je ne me risquerai pas à dire si c'est primaire ou final. Je ne me rappelle plus. Mais voilà. Et donc, enfin, nous, la France, qu'elle défend à Bruxelles, c'est d'arrêter de parler d'énergie renouvelable, mais pour parler d'énergie décarbonée. Et voilà.
J'aurais tendance à être plutôt de cette opinion aussi, quitte à avoir des ambitions plus grandes, mais...
Mais cela dit, ouais, enfin, dans le cas précis des objectifs d'énergie renouvelable, donc 42,5%, c'est pour tout le mix énergétique. Et le nucléaire, aujourd'hui, c'est 20% de notre consommation d'énergie. Donc il y a largement la place pour 42% d'énergie renouvelable et on aura toujours 20% d'énergie fossile dans cette configuration-là. Donc j'ai un peu de mal à percevoir où est le problème.
Bah, le problème, c'est que tu as une ambition que pour accroître une partie de tes leviers. Et ça serait plus simple d'avoir l'ambition sur l'ensemble des leviers. Tu vois, si on veut augmenter la part de nuque ou pas. Parce que
Ouais.
en plus, il peut y avoir des effets un peu pervers là-dedans qui est... je sais pas... Ouais, je vais pas rentrer sur ce terrain parce que je connais pas assez bien. Mais je pense que... Je pense que c'est en finale, donc tu vas avoir les questions de biomasse, etc. Et je pense qu'il peut y avoir des effets pervers de ce côté-là, tu vois. Je pense que augmenter la part de biomasse, par exemple, ça a
Ouais.
ça a des side effects, enfin des effets négatifs sur d'autres choses, et c'est pas forcément. Donc
Ah
j'ai
bah c'est
pas,
sûr
tu vois,
que
j'ai
là, ouais,
l'impression que
c'est
c'est pas la
clair.
meilleure métrique en fait. C'est juste ça, mais je connais pas très bien le
Le
sujet.
ouais, peut-être. Alors non, mais c'est sûr que la biomasse, c'est tout un sujet. Et d'ailleurs, oui, ça a un moment été un sujet au Parlement européen. C'était pas dans la directive énergie renouvelable, je crois que c'était dans une autre. Parce que c'est vrai qu'il y a. Voilà, bon, on ne va pas partir là-dessus maintenant, mais c'est vrai que la biomasse, c'est un des sujets sur lesquels il y a des dérives potentielles, quoi. Parce qu'en fait, très clairement, c'est la forêt qu'on exploite, et si on l'exploite trop, c'est le puits de carbone qui s'effondre. Donc, il y a effectivement des grosses limites. Mais bon, il y a quand même, enfin, voilà, il y a de la marge. Je pense que ce que la France cherche surtout avec cette histoire d'appellation énergie décarbonée, c'est, à la limite, c'est même pas tant les objectifs, mais c'est surtout aussi les financements au bout d'un moment. Parce qu'actuellement, le nucléaire exclut quasiment tout type de fonds alloués par l'Europe. Et ça, la France se bat pour que ça change, quoi. Va peut-être y arriver, mais c'est vrai qu'il y a l'Allemagne en face. Il y a beaucoup de pays aussi qui sont farouchement contre le nucléaire en Europe. Hein.
Ouais, c'est un sujet clivant,
Ouais,
comme
ouais,
peut
ouais.
ça l'être en c'est
C'est le nucléaire, quoi.
dommage, c'est enfin, bref. Il y a Flopo, je pense que c'est Florian qui nous demande. Le problème aussi, c'est que ça s'applique à tous les pays pareil, alors que c'est plus dur quand on mixe est déjà plus décarboné, non? Donc, juste cet objectif de renouvelable, c'est pas le même suivant tous les pays. Tu vois,
Si,
de.
alors, enfin, oui, non,
Ah!
il va être effectivement, si. Alors, il est différencié. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est dommage, je ne sais plus où j'avais trouvé ça, mais donc c'est 42,5% pour toute l'Europe, enfin au niveau collectif, en essayant même d'atteindre 45%. Et ensuite, chaque pays, en fonction de ses compétences, enfin, pas de ses compétences, de là où il en est, effectivement, a son objectif propre. Je crois que la France, c'est 42%. Et je crois d'ailleurs que du coup, c'est un des pays, par exemple, où là, on a eu la moins grosse augmentation. On est un des pays qui va faire le moins d'efforts, parce qu'on en a déjà fait auparavant. Pour le coup, avant, avec notre objectif de 23%, on était plutôt dans les pays qui allaient faire des efforts. Après, sur cette idée que. Enfin, il faut vraiment se sortir de l'idée que le mix énergétique français, il est décarboné. Enfin.
Ouais, on peut dire un mot, ouais, parce que clairement, c'est en fait l'électricité, c'est minoritaire dans notre consommation d'énergie, et
Voilà.
même la dépense majoritaire, c'est pour le chauffage. Et après, on est un pays pétrolier comme les autres pour les transports, on utilise encore du gaz pour l'industrie et pour se chauffer, etc. Donc la majorité de l'électricité consommée en France, ce sont des ressources fossiles. Mais alors, il y avait des questions aussi un peu plus précises, notamment sur les pompes à chaleur et la manière dont c'est compté.
Ouais.
Alors, de mémoire, je crois que, en fait, ils considèrent ils appliquent un facteur, genre tu rentres un kilowattheure d'électricité et tu vas
Ouais.
récupérer 2 kilowattheures de calories dans l'environnement, et ça, ils considèrent que c'est renouvelable dans la comptabilité. De
Ah,
mémoire, c'est un truc comme ça. Donc, il y a des questions de comptabilité assez marrantes.
Alors ça, je ne sais pas si c'est au niveau européen que ça se joue. Je sais qu'effectivement, en France, on considère dans tout un tas de programmes de soutien aux énergies renouvelables et tout, on classe les pompes à chaleur comme énergie renouvelable. Au niveau européen, je ne sais pas. Cela dit, effectivement, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a un peu la folie de la pompe à chaleur. En ce moment, l'Union européenne a fixé des objectifs énormissimes aussi. Après, sur là, le facteur dont tu parles, enfin, parce qu'il y a aussi le facteur entre énergie primaire et énergie finale. Ça, c'est un débat
Ouais,
qui agite beaucoup.
mais c'est des vraies questions compliquées et qui sont assez importantes, je pense. Mais c'est juste que tu vois, la pompe à chaleur, quand tu rentres 1 kWh dedans, tu vas récupérer des calories dans l'environnement. Et ça, ben, ils le prennent en compte en considérant que ces calories que tu prends dans l'environnement, c'est des calories renouvelables quelque part. Mais c'est
Bah,
vraiment des
pourquoi
questions de
pas, remarque.
comptabilité, mais ça peut changer pas mal de choses.
C'est
Et
vrai, ouais.
du coup, tu disais folie des pompes à chaleur, tu penses que c'est pas une bonne chose?
Bah, disons qu'il y a quand même quelques alertes sur le tout électrique dans le chauffage. En fait, bon, il y a deux choses. Déjà, une pompe à chaleur dans une maison qui n'est pas bien isolée, ça peut être vraiment la catastrophe en termes de performance et du coup de facture. Et en ce moment, il y a des gros soucis avec ça sur le. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de l'installation des pompes à chaleur financées par les certificats d'économie d'énergie. On se retrouve avec des arnaques terribles, des gens qui se font installer des pompes à chaleur pour 1 euro. Alors certes, ça leur coûte quasiment rien, mais en fait, si la maison n'est pas isolée à la base, si la pompe à chaleur est mal réglée, si les températures aussi sont pas adéquates, parce que les pompes à chaleur, ça marche pas dans les régions où il fait trop froid l'hiver, bah ça fait qu'en fait c'est contre-productif, quoi. Et puis il y a un petit sujet de pointe quand même, hein. L'hiver, quand tout le monde allume son chauffage, le nucléaire suffit pas tout seul. Et c'est des sources charbonnées qu'on allume. Donc bon.
Ok, ben on attendra une vidéo sur ma chaîne pour faire plein de compléments. J'ajouterai quand même que les champions en Europe, pour l'instant, ce sont des pays très froids, notamment les pays scandinaves, où il y a pas mal
Les
de
champions de la pompe
pollution.
à chaleur?
Bah ouais, beaucoup déployés en Scandinavie.
Ah ouais?
Scandinavie, Canada, ils en ont. Donc je pense que
Ah bah
l'argument des
écoute,
régions
ouais.
froides, ça se revoit. Après, c'est vrai qu'il y a la question du pic, etc. Chez nous, on a l'avantage d'avoir déjà des radiateurs électriques. Et si tu passes de radiateur électrique à pompe à chaleur, t'as quand même un gain, quoi.
Ah ouais,
Mais
mais
bientôt, bientôt, je pense que j'en aurai une et ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo.
t'as dû voir le, enfin, je veux dire,
Par contre,
c'est.
il y a plein d'arnaques et tout. Là, c'est sûr, à
Ouais,
chaque
ouais,
fois qu'il y a de
ouais.
l'argent de l'État, il y a plein
Ouais,
de gens
ouais.
qui tirent leurs épingles du jeu en laissant des pauvres personnes sur le côté, quoi.
En fait, le souci, c'est pas les pompes à chaleur le problème, mais le truc, c'est qu'en ce moment, on finance, quand tu regardes les aides, elles financent quasiment à 80% des changements de chauffage. Donc, c'est bien, ça décarbone, mais la consommation d'énergie, elle réduit pas pour autant. Et puis surtout, la précarité énergétique, elle reste la même. Enfin, je veux dire, les gens qui passent du Alors, quand on passe du fioul à une pompe à chaleur, c'est vrai que c'est bien. Mais voilà, il suffit pas d'avoir une pompe à chaleur pour avoir vraiment transformé son logement afin qu'il pollue moins, quoi.
Et je voulais juste dire un mot parce que je profite de voir Florian sur le chat. J'ai commencé à regarder Échange climatique. Il y a un épisode qui est sorti hier sur le pacte vert européen est-il en danger? J'ai vu une bonne moitié et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je pense que ça pourra en intéresser certains en compagnie. Et on salue évidemment le créateur. J'ai dit en compagnie, je voulais dire en complément. Et on salue évidemment le créateur du podcast.
Ouais, c'est bien que tu me le signales, ouais, j'irai écouter.
Ouais,
Je
j'ai vu
pense
une
que la
moitié,
réponse
c'était
est un
cool.
peu oui quand même, non?
Ok, donc Green. Alors, il y avait un autre truc aussi que je voulais mentionner rapidement, et tu me corrigeras si je raconte n'importe quoi. Moi l'an dernier, j'avais passé pas mal de temps sur le sujet de la tarification du carbone, donc taxe carbone, marché de quotas,
Ouais.
etc. Et là aussi, on sait en France, hein, ça a été gelé au moment des gilets jaunes. Et en fait, cette tarification du carbone, moi, je fais partie des personnes qui sont persuadées que c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, quoi. C'est un des rares trucs qui ajoute du frottement sur les ressources fossiles et qui rendent moins intéressant ce qui reste dans le sol. Donc j'ai du mal à comprendre comment on peut faire sans, quoi. Sauf
Ouais.
des trucs vraiment interdiction, etc., d'extraction, quoi. Mais là, voilà, ça fait un peu le balai de la transition. Et là aussi, aujourd'hui, c'est beaucoup porté par l'Europe. C'est là que ça se durcit, c'est là que le marché ETS augmente en prix et augmente aussi de plus en plus en périmètre. Et il y a aussi cette volonté de l'Europe d'avoir une tarification carbone aux frontières et de pouvoir grimper chez nous sans impacter l'économie. Donc là aussi, c'est une question sur laquelle l'Europe
Ouais,
est
c'est
très
vrai.
puissante, alors qu'en France, on s'est un peu affaibli, hein, en termes
Ouais.
de
Mais
volonté.
ouais. Bah, la taxe carbone, moi aussi j'y suis favorable, mais le problème c'est qui est-ce qui la paye, quoi. Jusqu'ici en Europe, la taxe carbone, elle était surtout payée par les entreprises, en fait, hein, bah, enfin, via les quotas carbone, et c'est encore largement le cas. Mais le problème, quand tu la fais payer indistinctement aux particuliers, en fait, il faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire. Enfin, comment dire, la plupart du temps, ça se traduit par le fait que les gens vont payer plus cher leur essence. Ça veut pas dire qu'ils vont acheter tout de suite une voiture électrique, déjà parce qu'ils n'en ont pas tous les moyens, quoi. Donc en fait, la taxe carbone payée par les particuliers, c'est délicat d'un point de vue social, si tu mets rien en face, en tout cas. Et là, justement, l'Union européenne a voté pour un élargissement du marché du carbone et pour intégrer à l'intérieur, justement, le chauffage des bâtiments y compris particuliers. Et on a fait une conférence avec l'Institut Rousseau sur le sujet. Ils entrevoient une hausse des factures pour les ménages qui se chauffent encore au combustible fossile de 10%. C'est énorme. Et moi, socialement, je me demande vraiment comment ça va passer en France, quoi. Parce que pour l'instant, évidemment, les gens n'en ont jamais entendu parler, quoi.
Ben c'est en fait, bon, je ne sais pas si tu avais vu ce qu'on avait fait à l'époque. En fait, avec les collègues, on avait fait 3 vidéos d'une heure hein, sur la tarification carbone. Et,
Alors,
euh...
pas de sur la tarification carbone.
et ouais, c'était un sujet que moi je pense très important. Donc, on avait investi vraiment beaucoup de temps dedans. En plus, c'était un
Ouais.
sujet assez compliqué. Et ça fait pas beaucoup, beaucoup de vues parce que c'est pas hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette question de justice sociale. Et je pense qu'elle se. Enfin. Parce que là, tu fais la différence entre faire payer les entreprises et les particuliers, mais si tu fais payer Total à l'extraction, bah, ça se répercute sur les particuliers en fin de chaîne. Donc, si on commence
Ouais.
vraiment à la mettre sur les produits pétroliers, peu importe l'endroit où tu la mets dans la chaîne de valeur, ça va taper sur les gens qui sont déjà limites, quoi. Et donc, il y a toute la question de comment tu rends ça juste. Et ça, c'est la vidéo qu'avait fait Philoxime. Je ne sais pas si tu vois, c'est un collègue vidéaste qui traite plutôt les questions d'éthique et de philosophie du climat.
Ouais.
S'il passe par là, je le salue. Il a fait des très bonnes vidéos, hein, je pense. C'est assez complémentaire de ce que tu peux avoir comme autre travail sur YouTube. Sur voilà, est-ce que c'est éthique de rouler en SUV et des vidéos sur les COP et tout. Et lui, il avait abordé cette question de la justice dans la tarification du carbone. Et j'en avais pas mal discuté aussi avec un lobby citoyen qui s'appelle Climate Citizen Lobby. Lobby citoyen pour le climat, peut-être en français.
Ouais.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment que. Alors, tu pourrais essayer de flécher, tu vois, de récupérer cet argent parce que tu appliques une pression. Et en fait, cette pression, elle a un intérêt, même si après, tu redistribues cet argent. Tu vois, tu le redistribues. Et après, tu peux essayer de le flécher vers les plus démunis. Alors, si ça
Ouais.
compense entièrement la hausse du combustible fossile, quel va être l'effet, ça, je sais pas. Et puis, il y a un truc aussi beaucoup plus simple qui est la proposition économique la plus bête à laquelle tu peux penser, c'est tu récupères tout cet argent, d'accord, payé par la taxe carbone, et tu le redonnes à tout le monde. Mais uniformément. Et en fait, le
Ouais.
truc, c'est que les plus riches, vu qu'ils polluent plus, ils payent davantage. Et quand tu vas le rendre uniformément, bah, eux, ça va leur
Tu leur
coûter
rends un peu
quelque
moins.
chose. Et les plus pauvres, vu que bah, ils dépensent quand même moins en absolu, et bah, ils récupèrent plus d'argent que ce qu'ils ont dépensé. Et donc, tu t'appliques une pression, et en plus, c'est redistributif. Alors après, est-ce qu'on saurait le faire? Est-ce que politiquement on peut? Est-ce que l'Union le permet, etc. C'est pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que la tarification du carbone a un intérêt par la pression économique qu'elle applique, et ça n'empêche pas de redistribuer cet argent pour faire quelque chose de plus juste, quoi.
Ouais, mais tu vois, il y a quand même, enfin, parce que tu vois, tout ça, en théorie, ça marche, mais il y a une question de temporalité et d'efficacité de la redistribution. Enfin, je veux dire, en termes de trésorerie, quand tu es un ménage avec des moyens précaires, si on te prend de l'argent maintenant, mais qu'on te le rendra plus tard, c'est déjà trop tard, quoi. Enfin, tu vois. Et aussi, pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le fait que je trouve plus intéressant de faire payer une taxe carbone aux entreprises, c'est parce que du coup, t'as éventuellement une chance, pas seulement de les faire payer plus cher, mais aussi de les faire du coup changer de comportement. Ce qu'un citoyen va pas faire, en fait, on n'est pas des homo economicus qui fonctionnons avec autant de rationalité que ça, même si sur X années c'est plus rentable de changer de comportement. Le fait est que des gens ne vont pas avoir les ressources pour le faire et qu'ils vont juste payer plus cher, alors qu'une entreprise, elle peut se permettre de changer de comportement. Beaucoup, surtout si c'est Total. Mais j'ai pas vu tes vidéos, donc je m'aventure pas sur ce sujet que tu connais quand même beaucoup mieux que moi.
Bon, en tout cas, à minima, ce sujet que moi je pense important, maintenant il est plus poussé par l'Union européenne.
Ouais. Bah écoute,
Ça,
on va voir ce
c'est
que ça va
certain.
donner quand le marché du carbone va s'appliquer aux ménages, les plus 10% sur la facture. Moi,
Parce que
j'attends de voir, hein.
ça va être à combien le niveau de prix?
Ben, ça va encore être le marché des quotas carbone. Le prix de la tonne, il est fixé en fonction. Actuellement, il est à 55 euros, non? Ou non, même il est à plus, hein.
Bah, c'est là que je suis étonné, c'est que pour moi, si on le met sur les ménages, on va le mettre, on va retirer le moins 10 ans, donc on va le mettre à la place de la taxe carbone française.
On va retirer le moins disant, c'est-à-dire.
Bah, j'aurais du mal à croire que, tu vois, on applique une tarification du carbone européenne sur les ménages et qu'on garde la taxe carbone française dans le même temps. Donc je pense qu'on retirera le plus bas des deux. Et en fait, la taxe carbone française, elle est encore là, elle est à 45 centimes. Hein. Donc, tu vois, le saut entre les deux, ça ne me paraît pas faire 10%.
Mais pour le coup, il faudrait regarder à nouveau. Tu sais, je t'avais envoyé les extraits de la conférence de l'Institut Rousseau.
Ah, ok.
C'est sur la partie bâtiment où ils annoncent plus 10% pour le chauffage à partir de 2027, si je ne me trompe pas.
Je regarderai.
Et moi, ça fait plusieurs fois que j'entends parler quand même de. Par exemple, la gauche, et même l'écologie, c'était vent debout contre la mesure. Hein. Et donc, des fois, ce n'est pas parce que c'est écolo que c'est social. Et quand on a posé la question lors de la conférence avec les candidats à l'Institut Rousseau, ils n'étaient pas à l'aise.
Aïe, aïe, aïe.
Mais je maîtrise pas.
Ok.
Parce que voilà, je maîtrise pas non plus. Si bien que ça le sujet, parce que pour le coup, je vois bien comment fonctionne le marché actuellement avec les entreprises qui revendent leurs quotas et tout ça. Est-ce que désormais les particuliers revendront aussi leurs quotas comme c'est le cas avec les certificats d'économie d'énergie? Ça, je suis pas allée dans ce
Mais
niveau de détail.
ouais, mais j'ai perdu le fil de ma pensée.
Et transport aussi,
Ah oui,
je veux dire.
et pour les plus démunis, tu peux toujours envisager, comme on a pu le faire, des chèques énergie. Mais ce qu'on a fait en France, par contre, le problème, c'est quand tu le fais sans condition de revenu, quoi. Ça c'est vraiment
Ouais, tout à fait.
ces subventions aux ressources fossiles, on peut plus se les permettre, quoi.
Non, c'est sûr, bah ça c'est sûr. Ça fait partie des gros sujets à l'avenir, là. Hein.
Alors, j'avais noté des questions qui ont défilé assez vite. Vu qu'on avait dit quelques mots d'Equinox, il y avait une question semblable sur Nouvelle Donne. Je ne sais pas si tu connais un
Ouais.
petit peu et si tu veux en parler rapidement.
Ouais. Bah alors moi, Nouvelle Donne, j'associe surtout à la Roue Turou. Son prénom m'échappe.
Pierre, non?
Pierre, voilà, Pierre la Roue Turou, qui va pas être réélu, j'ai l'impression là, tel que c'est parti, parce qu'en fait.
Et il était déjà eurodéputé, mais pas pour Nouvelle Donne, si.
En fait, oui, Nouvelle Donne, c'est son mouvement, mais en 2019, il était sur la liste du PS. Enfin, il était avec. Enfin, c'était pas Glucksmann à l'époque, mais il était avec Place Publique. Et cette année, ils ont voulu faire. Enfin, d'après ce qu'il m'a dit, ils se sont un peu fait éjecter. Et il n'a pas non plus trouvé sa place au sein des écolos, alors qu'il est quand même très très proche. Des écologistes. C'est un peu un électron libre, Pierre Larrouturou. Je dis ça, je parle même de sa politique de vote. Pour le coup, lui, il est dans le groupe SND, sociodémocrate, et il le revendique parce que bah, c'est le deuxième groupe le plus puissant. Et donc, il dit que ça le c'est très pratique. Il a été, je crois, rapporteur du budget, par exemple, ce qu'il n'aurait jamais pu être en étant dans un petit groupe. Rapporteur du budget ou. Quelque chose avec le budget, bref. Et ben, il a des positions très écologistes. Il a fait une grève de la faim pour obtenir une augmentation du budget. Je crois que c'était en 2020. Il milite vachement pour la semaine de 4 jours, qui est quand même une mesure très écologique s'il en est. Et aussi, un de ses grands combats, c'est la taxe financière sur la spéculation là, ou les transactions. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'il me disait, en fait, ce genre de sujet, par exemple. Bon, de toute façon, dès qu'on touche aux ressources propres de l'Union européenne, c'est compliqué parce qu'il faut obtenir, je crois que c'est consensus, en fait, auprès du enfin, il faut que tous les États membres soient d'accord, et ça n'arrive en fait jamais parce qu'il y a des paradis fiscaux par exemple au sein de l'Union européenne. Et bon, il disait là par exemple sur ce sujet de la taxe financière, là je répète ce qu'il me dit parce que j'ai pas creusé le sujet. Donc lui il pense que sur ce sujet-là en particulier, c'est Bruno Le Maire qui bloque, c'est la France qui bloque. Et il dit il suffit d'un Bruno Le Maire pour bloquer une ressource financière, je crois qu'il parlait de 57 milliards d'euros par an. Et en fait, pour contourner ça, lui, il propose l'instauration d'un référendum pan-européen sur le sujet. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, si on commence à faire des référendums À chaque question de l'Union européenne, ça va être long, quoi. Mais voilà, donc ouais, lui, ses gros sujets, c'est la semaine de 4 jours, la taxe foncière. La taxe foncière. La taxe sur les transactions financières. Et plus de budget pour le climat, quoi.
Et il y avait une question aussi du même style sur Parti communiste, est-ce qu'ils ont des eurodéputés et comment ils se positionnent sur l'écologie et...
Ils en ont. Je ne sais pas combien ils en ont en France.
et ils siègent avec LFI dans ce cas-là? C'est le même groupe?
Oui, ils sont dans le même groupe qu'LFI. Alors, je sais qu'ils en ont parce que j'ai vu partir. Il y a un gars de LFI qui est parti chez les communistes. Donc c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un groupe communiste. Mais franchement, ils sont, à mon avis, pas nombreux. Je suis en train de regarder si je les trouve là dans l'article. Bah, les communistes, sur les sujets climat, c'est pas toujours évident, hein. Ils sont encore très industrie. Oh, c'est un des rares groupes à gauche qui est pour le nucléaire.
Mais tu les trouves trop productivistes pour des écolos.
Ouais. Mais après, là, je te dis ça, en fait, c'est pas un groupe qui me marque au Parlement européen. Donc, en vérité, je suis en train de te parler là, de ce que moi je vois d'eux en France. Mais au niveau européen, en fait, je ne les ai pas vus. Autant, tu vois, par exemple, LFI, Manon Aubry, bon, faut dire, elle est chef du groupe. C'est une députée qui existe énormément. Elle est là, quoi, même médiatiquement. Et puis, elle dépose un nombre incalculable d'amendements et tout ça. Les communistes. J'en connais pas, je les ai pas trop vus. C'est Emmanuel Morel, je crois, qui était chez LFI, qui est parti chez les communistes. Stratégiquement, c'est intéressant comme choix de quitter un petit groupe pour aller dans un encore plus petit groupe.
Tom demande, on entend souvent parler des problèmes de veto dont tu as mentionné sur les paradis fiscaux. En réalité, ce serait quoi le chemin pour que les droits de veto soient supprimés? Ben, c'est dans le fonctionnement de l'Union européenne, en fait. Il faudrait
Ah
changer le
ouais.
fonctionnement.
Là, c'est les traités, ouais, il faudrait changer les traités. Hein. Ouais. Et là-dessus, il y a beaucoup de. Ça c'est une des choses qui m'a marqué là, en feuilletant les programmes des candidats aux élections européennes, c'est qu'ils proposent beaucoup de choses qui nécessitent de faire bouger les traités. Il faut aussi être réaliste. C'est pas tous les 4 matins qu'on change le fonctionnement de l'Union européenne, quoi. Surtout, d'ailleurs, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est. Surtout dans le sens d'un détricotage, en fait. Ça va être plus dur de détricoter l'Europe que de la faire s'intégrer toujours plus. Je dis ça parce que le RN propose de revenir à une Europe des coopérations. Enfin, ça paraît. C'est impossible à mettre en œuvre.
Ça paraît peu crédible.
Ouais.
Faudrait qu'ils aient quoi? L'unanimité?
Ouais, et puis même d'un point de vue pratique, en fait, à partir du. Enfin, comment dire? Comment imaginer que les compétences qu'on a cédées à l'Europe, enfin, par exemple la monnaie, maintenant qu'on a cédé ça à l'Europe, c'est inimaginable de réinstaurer des monnaies nationales et de reprendre que les banques nationales reprennent le contrôle là-dessus. Enfin, mais pour le coup, ça c'est un mode de fonctionnement des institutions. Elles se maintiennent, après ensuite elles existent pour elles-mêmes et surtout enfin, tu détricotes pas une institution comme ça, quoi. Et des gens que j'interviewais me disaient que l'Union européenne, plus elle est intégrée, plus elle a vocation à s'intégrer, en fait.
Et du coup, il y a une réaction du chat qui dit, pour le coup, enlever les droits de veto serait plutôt un renforcement du pouvoir de l'Europe qu'un détricotage. Tu vois,
Oui,
si ces
non, oui,
compétences qui
ouais.
aujourd'hui laissent un veto, si on passe sur une majorité ou une majorité, je sais pas comment on dit, qualifiée ou whatever,
Ouais.
ça rendrait un certain nombre d'évolutions plus rapides, quoi. Mais
Oui, tout à fait.
dans ce cas-là, faudrait quoi? Faudrait voter à l'unanimité une évolution du traité? Enfin,
Je
je sais pas
crois,
du tout ce
ouais.
que je dis,
Moi,
mais...
en vrai, je sais pas trop parce qu'en plus, enfin, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas eu ce cas de figure. En tout cas, moi, j'ai pas eu à couvrir ça en tant que journaliste et je sais pas du tout, même. Quand on a voté pour la Constitution européenne qu'on a rejetée puis qui a finalement passé. Je ne sais pas du tout comment, quel était le process. Enfin, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque et vraiment, je ne sais pas. Mais oui, en effet, ce serait, on irait dans le sens d'une Europe plus intégrée. Je voulais parler du détricotage parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de partis et notamment ben, le RN qui veulent revenir sur sur l'intégration européenne. Ça paraît vraiment compliqué, quoi.
Et ouais, et il y a un sujet qui est revenu là plusieurs fois dans le chat. Par exemple, Fab Chess qui dit on va se faire bouffer par la Chine et les US si on n'a pas l'Europe, je pense. Il y a aussi cette idée de. Voilà, là, on a des partis qui veulent moins d'Europe, notamment l'extrême droite, et d'autres qui aimeraient bien plus d'Europe. Et il y a cette idée de. En fait, l'Union européenne. Pardon, je dis Europe pour Union européenne. L'Union européenne, c'est un gros marché avec beaucoup d'habitants dedans et c'est ce qui permet d'avoir un poids politique à l'échelle d'autres grandes puissances, quoi. Il y a
Ah bah
vraiment
tout à fait.
cette chose-là qu'on n'a pas trop mentionné, je pense, jusqu'ici, mais qui est un
Ouais.
point très important.
Ouais. Bah, ça c'est alors c'est un sujet qui commence à venir tout juste parce que c'est vrai que enfin tout juste qui commence à venir vers les eurodéputés. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait comme la DG Comp a un peu tendance à faire ses affaires dans son coin, à signer ses accords de libre-échange. C'est un voilà, c'est mais effectivement avec là avec les récentes crises. Que ce soit le Covid ou la guerre en Ukraine, il y a eu une remise en question. Alors, une remise en question, pour l'instant, et surtout dans les discours, dans l'idée que, effectivement, déjà, le libéralisme et le libre-échange, ne font pas forcément, que du bien à l'Europe. Et surtout, en fait, vu que énormément d'autres puissances, enfin, toutes, en fait, les puissances économiques maintenant font du protectionnisme. Écologique ou protectionnisme tout court. Donc il y a vraiment l'idée qu'effectivement maintenant il faut que l'Europe se protège plus, fasse plus de contenu local. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que pour l'instant c'est beaucoup dans les discours, c'est pas suffisamment dans les faits. Enfin là il y a je sais pas si c'est un règlement, une directive, le fameux NZIA, Net Zero Industry Act, donc pour qui est la réponse à l'Inflation Reduction Act américain. Qui est vraiment censé être un acte de protectionnisme écologique, donc favoriser les industries qu'on considère stratégiques, notamment pour la transition écologique sur le territoire européen. Mais en fait, pour l'instant, c'est vraiment pas du tout à la hauteur. Enfin, ce que met les États-Unis sur la table, c'est sans commune mesure avec ce que l'Union européenne propose. On a encore beaucoup de mal à faire le virage idéologique nécessaire, quoi. Et pourtant, dans les discours, ça y est, quoi. Hein, surtout les Français d'ailleurs. Mais dans les faits, on n'y est pas encore assez, quoi. Ça pourrait être l'objet d'un. Ça pourrait. Enfin, je pense que ça va revenir dans le mandat qui vient. L'extrême droite ne devrait pas faire barrage, encore que, hein, enfin, plein de surprises. Hein.
Et y a un truc aussi que j'ai lu plusieurs fois, quand on continue de discuter de l'importance de l'Union européenne sur ces sujets, il y a un truc que j'ai lu plusieurs fois, je ne sais pas à quel point c'est vrai, qui est que on a des réglementations qui sont plus corsées que dans d'autres endroits, donc c'est un peu nous qui fixons des normes au niveau mondial, quoi. Sur
Oui.
des sécurités, sur des objets, sur des.
Ouais, oui, enfin, en tout cas, je sais que sur les sujets climat, oui, c'est vrai que l'Union européenne est en avance. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas dire ça parce que, enfin, comment dire? En fait, on est en avance, mais on est tellement pas à la hauteur quand même. Mais oui, ça, enfin, en tout cas, bon, pour revenir moi à mon sujet qui est celui du climat, par exemple. Le fait d'instaurer chez nous des choses, des règles environnementales, ça nous rend crédibles en fait sur la scène internationale. Et lors des COP, quand il s'agit de négocier, c'est vraiment ça a du sens. Et je me souviens, c'était pas cette année, mais c'était l'année dernière, donc en Égypte. J'ai déjà oublié, c'était il y a longtemps. Enfin, pendant, en fait, pendant, on a eu une COP qui était en pleine crise de l'énergie. Et donc, l'Union européenne était en train de rallumer à tour de bras ses centrales à charbon. Et en fait, ça nous a rendu totalement inaudibles sur la scène internationale. Les pays africains disaient, mais vous nous demandez de pas construire de centrales à charbon et vous voulez rallumer chez vous. Non, en fait, non, on n'ira pas. Et en fait, du coup, quand l'Europe n'est pas moteur, c'est le monde entier qui s'arrête sur les sujets environnement, parce que enfin la Chine et les États-Unis, ouais, ils prennent vite fait le relais, mais c'est pas voilà, ça suffit pas quoi. Et donc c'est vrai que oui, en fait, enfin c'est ça sert pas qu'à nous, ça sert à tout le monde en fait d'être moteur sur ces sujets-là quoi. Je me rappelle plus où était la COP 26.
Alors, l'avant-dernière COP, ouais, à Sharm el-Sheikh.
Ouais, c'est ça, en Égypte alors.
En
Ouais.
Égypte. Donc, ouais, on a un marché massif. Et pour les normes, il y en a qui mentionnent le numérique. Il y en a qui mentionnent aussi REACH, par exemple, qui gère tous les problèmes de
Les produits
toxicité de
chimiques.
produits
Ouais.
chimiques. Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est un. Ouais, on est effectivement moteur. Et par exemple, il y a des choses qu'on instaure. La taxe carbone aux frontières, par exemple, aussi timide soit-elle, c'est vraiment un truc hyper timide sur six matières premières. Qui va vraiment entrer en vigueur, je crois pas avant 2027-28, mais quand même, c'est un signal et d'autres puissances regardent ça de près. Je crois même que la Chine envisage de faire pareil maintenant. Donc ça marche quoi.
Donc allez voter dimanche, encore une fois.
Non, puis du coup, pour finir sur le commerce, parce que c'est vrai que bon, ben, l'Europe elle est un peu coincée sur le commerce parce que l'air de rien. Elle
C'est
veut
construit
aussi
sur le libre-échange
exporter.
quand même, hein.
Voilà, ouais. Et en fait, bon, elle veut se protéger, mais elle veut aussi exporter. Par exemple, sur l'agriculture, c'est sensible parce que d'un côté, on se plaint énormément que les agriculteurs européens sont mis en concurrence avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes, c'est vrai. Mais en fait, en échange de ça, on exporte d'autres produits à valeur beaucoup plus élevée dans ces pays-là. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, pendant la crise agricole, on n'est pas revenu sur les accords de libre-échange. Pourquoi je partais sur ça à la base, c'était pas ça que je voulais dire. Voilà, en ce moment, de plus en plus, l'Union européenne maintenant essaye, quand elle signe des accords de libre-échange, d'instaurer ce qu'elle appelle des clauses miroirs. Donc, c'est-à-dire que certes, certes, on baisse les droits de douane sur certains produits, mais seulement si le pays en face s'aligne sur les normes. Climat, enfin surtout environnemental. Et d'ailleurs, des gens reprochent, tant qu'à faire, on leur demande de s'aligner sur les normes environnementales, on peut aussi leur demander de s'aligner sur les normes sociales, parce que ça aussi, c'est un énorme problème, quoi.
Donc on n'accepte plus de détruire l'environnement pour payer moins cher, mais on accepte encore de détruire les gens pour payer moins cher, quoi.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu fou, quand même. Enfin, je veux dire, d'avoir pensé climat, mais parce qu'on y a parce que la, parce que l'Europe y trouve un intérêt sur ce sujet-là, alors qu'en vrai, ça l'arrange bien qu'il y ait des produits importés qui coûtent vraiment pas cher à cause du prix de la main-d'œuvre.
On achète la paix sociale avec le malheur des pays en voie de développement.
Ouais, sauf que ça commence à. Enfin, toi, on achète la paix sociale, mais là, les agriculteurs commencent, parce que c'est eux les vrais perdants des accords de libre-échange, tout le temps. Ça commence à nous retomber dessus, en fait. Enfin, les accords de libre-échange, c'est vraiment. Je crois que c'est l'accord avec le Chili, par exemple, qu'on a appelé l'accord voiture contre steak, un truc comme ça. Enfin, en gros, on leur importe de la viande à pas cher pour exporter nos voitures. Mais donc, du coup, c'est les agriculteurs européens qui perdent dans l'affaire.
Ouais. Alors ça tu l'avais déjà mentionné, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs réactions là-dessus. Fafchès, il dit par exemple, moi qui suis l'agriculture, suis au sens suivre,
Ouais.
ça me déprime par contre, ça me déprime, ça me saoule, etc. T'avais dit que c'était un peu un truc qu'on a raté jusque-là, l'agriculture, et que dernièrement
Ouais.
là-dessus, on n'a pas réussi à.
Ah bah non, mais là, ce qui s'est passé pendant la crise agricole, c'est désolant, quoi. Parce que je veux dire, la colère des agriculteurs, elle est extrêmement légitime, mais d'y répondre en supprimant tous les critères environnementaux, mais Ça change rien. En plus, ça va pas du tout augmenter leurs revenus, en fait. Et du coup, c'est, enfin, rien n'est réglé, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est difficile parce que, enfin, en fait, les agriculteurs sont aujourd'hui ceux qui pâtissent le plus, par exemple, de l'utilisation des pesticides. Quand on regarde le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, c'est que des agriculteurs qui majoritairement sont empoisonnés.
Bah, ils
Et en
sont
fait,
plus exposés que nous, quoi.
voilà, c'est ça en fait. Pour le coup, ils en pâtissent énormément, quoi. Et même le changement climatique les confronte vraiment à des difficultés terribles. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On va réduire les critères environnementaux, mais en fait, on recule pour mieux les matraquer. Enfin, ça va, c'est intenable en fait, hein. Donc, c'est ce qui s'est passé là. Ça a été très désolant, mais moi, ça m'a fait réaliser la chance qu'on avait eue. Pendant les premières années, là, depuis 2019, on avait vraiment eu un élan. Et là, on voit la chute tout d'un coup
Ah
c'est
ouais,
raide, quoi.
Vert a été lancé au moment de cet élan-là.
Ouais, c'est vrai. Et
Vous avez
d'ailleurs,
été sur la vague. Maintenant, vous allez
actuellement,
voir que c'est des sinusoïdes. Ça reviendra.
bah, Vert fait sa campagne de dons sur ça, sur le fait que là, en ce moment, l'écologie est en train de sortir de tous les radars. Enfin, vous avez certainement dû voir que plusieurs chaînes du service public suppriment leur programme écolo, alors qu'on vient de. On a déjà eu l'année la plus chaude jamais enregistrée en 2023. Ça va être pareil en 2024. Et on s'arrête de parler écologie, quoi. Donc, quelque part, ça rend vert d'autant plus important. À la limite, quand tout le monde parlait écologie, bon, un média écologiste. Mais là, il reste un peu, voilà, il reste plus grand-chose, quoi.
Alors il y a pas mal de réactions en vrai. On a 130 personnes là et il y a pas mal de messages, de questions et tout. Qu'est-ce qu'on peut aborder comme point encore? Alors il y a des personnes qui demandent voilà pour qui voter, voter utile. Est-ce que c'est utile de voter Place Publique, voter Europe Écologie et Vert, voter Equinox pour le kiff? Je sais pas si tu veux, alors pas nous dire ce que tu votes toi, mais je sais pas si t'as des. C'est pas
Bah,
évident comme question. Moi je dirais
moi,
allez voter déjà, c'est hyper important mine
déjà,
de rien
aller
et
voter,
encouragez les gens autour de vous à aller voter. Parce que ce sont des élections qui vraiment influencent votre vie. Et sur l'écologie, c'est hyper puissant, hein, l'Union européenne.
ouais,
Donc,
non, c'est très important, quoi.
allez
Et
voter.
je crois que c'est Jean Covici qui disait que sur certains sujets, c'est plus important que la présidentielle. Et donc, voilà. Bah, moi, j'ai été assez sensible quand même à l'argument de Nelson Nierman, là, le thread que tu m'as envoyé cet après-midi, où en
Ouais.
fait, quand même. Disons que le vote, en fait, pour le coup, autant le scrutin proportionnel favorise a priori les petites listes, mais c'est pas non plus comme la présidentielle où on peut voter par plaisir pour un petit candidat sans que ça ait de conséquences. Là, du coup, ça en a en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu sensible à l'argument et je pense pas que j'irai voter pour une petite liste. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Ouais.
Après, le vote utile, c'est vrai que c'est pas du tout comme les présidentielles. On peut être tenté de. C'est vrai que voilà, faut regarder un peu les partis qui sont puissants aujourd'hui au Parlement. C'est l'EPS et la droite. Mais bon, franchement, les eurodéputés LR, enfin, ils travaillent vraiment très peu et très mal. Voilà.
Je rigole parce que il y a quelqu'un qui dit attends, faut que je retrouve. J'ai encouragé un pote à aller voter, il m'a dit vouloir voter Bardella. Youpi. Alors, encouragez les gens autour de vous à voter si vous pensez qu'ils voteront pas l'extrême droite.
Ça c'est pareil. Enfin, je veux dire, bon, évidemment, au-delà du laïus classique sur le fait que ils ont un programme raciste et extrêmement obscurantiste par certains aspects, il y a aussi l'idée que, comment dire, l'Union européenne, c'est aussi des pays qui s'affrontent un peu, hein. Enfin, faut pas oublier ça, c'est que c'est la France contre l'Allemagne. Il y a toujours un peu de friction, en fait. Il y a des jeux d'influence très forts. Et quand nous, en France, parmi nos 81 députés, on choisit d'en envoyer 30 qui sont RN, qui sont des gens qui travaillent pas, qui n'ont pas d'influence, et qui votent constamment à l'encontre des avancées européennes, en fait, C'est la France tout entière qui perd son influence. Parce que du coup, on perd des commissions, enfin, on perd vraiment notre influence, au-delà du fait que ça donne une image que je considère, à titre personnel, embarrassante de la France.
Et il y avait une question hein, qu'on avait abordée un peu avant. Donc imaginons que, je sais pas, que dans mon public, il y ait des gens covidistes, ça peut arriver, et qu'ils soient embêtés par la question du nucléaire. Du coup, tu leur
Ouais.
conseillerais quoi comme compromis? D'oublier le nucléaire et qu'il y a plus important ou... Parce qu'il
Bah
y a quand même cette difficulté, c'est vraiment un truc où je pense que, comment dire, il y a des personnes qui sont arrivées dans l'écologie plus récemment. Et qui sont pas en phase avec ce qu'a pu être l'écologie,
ouais,
la
je comprends.
construction
Ouais.
écologique politique, antérieure, quoi.
Bon, sur ce, bah bon, déjà, il y a Renew. Comme je disais, qu'on ait quand même été assez constructif sur les sujets écolo au Parlement européen. Il y a même eu à plusieurs reprises les eurodéputés Renew qui se sont un peu opposés à la France sur certains sujets. Enfin, ils ont vraiment été plus moteurs. Et par contre, enfin, comment dire, sur le nucléaire, faut pas s'inquiéter. La France, enfin, au-delà des députés, la France avec ses ministres et avec son chef d'État fait très bien le boulot pour défendre le nucléaire. En ce moment, il y a un lobbying extrêmement intense qui est d'ailleurs en train de payer pour que le nucléaire soit financé par des programmes. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas s'inquiéter. C'est bon. On peut même dire que, enfin, je veux dire, c'est quand même un, enfin, il y a une obsession, une obsession avec ça quand même, hein.
Mais il y a des obsessions antinucléaires de l'autre côté, donc ça
Ouais,
se monte la
mais
brique.
entre nous, le conseil de l'UE est très puissant.
Ok.
Même parfois, enfin voilà, sur certaines discussions en trilogue, il y en a qui disent qu'au final, c'est toujours les ministres qui l'emportent. Donc, je pense que c'est. Mais ça, d'ailleurs, c'est un des problèmes de l'Union européenne, c'est que les États, comment dire, les. Ouais. C'est encore beaucoup d'États qui s'affrontent et qui veulent tirer de l'Union européenne ce qui les importe à eux. Et donc, en fait, enfin, la France, les ministres français, quand ils vont à Bruxelles, ils pensent à la France et au nucléaire, et on veut de l'argent pour le nucléaire. Et ce n'est pas les petits députés, 72 députés écolos en face, qui vont y changer grand-chose, quoi.
Ouais. Il y avait une question pour moi qui était, est-ce que c'est pas mon cas du coup d'être gêné par cette question nucléaire? Et effectivement, ça me gêne un peu dans la présentation de l'écologie, mais en
Ouais, je
fait,
comprends.
le truc, c'est aussi que voilà, là, on vous a parlé d'écologie dans le cadre de l'Union européenne, et en fait, il y a plein d'autres questions qu'on n'a pas évoquées, et vous allez voter sur toutes ces autres questions. Et en fait, sur la manière dont je me positionne sur ces autres questions, qui jouent aussi beaucoup sur mon vote, bah, on n'a pas cette discussion. Donc, vous ne comprendrez pas forcément mon vote, parce que je ne vote pas que sur des questions d'écologie, et que je ne réduis pas l'écologie au nucléaire. Et du coup, c'est qu'une question de compromis, en fait. Il n'y a jamais de parti qui incarne intégralement ce qu'on pense sur tous les sujets, quoi.
Ouais.
Mais j'ai quand même... En fait, sur le nucléaire, j'ai même une frustration supplémentaire qui est que, à mon avis, il y a aujourd'hui suffisamment de gens qui jugent l'écologie importante, voire pour qui c'est une priorité, et qui ne sont pas anti-nucléaire pour qu'ils aient le droit à une représentation. Et j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a un décalage entre la manière dont cette base de l'écologie a évolué et puis ses représentations politiques. Donc c'est plus ce truc-là, cette inadéquation qui me gêne un peu. Et là, on va nous répondre, Equinox.
Ouais, mais tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'Equinox.
Mais ils sont, ouais.
Ouais. Mais à voir comment ce parti va se développer à l'avenir, hein, parce que c'est vrai il comble très probablement un manque pour beaucoup de gens, ouais.
Et ok, il y a peut-être un dernier sujet que je voulais aborder, comme ça on finira pas trop tard. Alors je sais pas si ça rentre tout à fait dans le cadre, c'était un point à discuter de ça, il n'y a pas de souci. Qui est, qu'est-ce que tu penses un peu de la représentation médiatique des élections européennes et par exemple de ce truc assez ouf d'un débat entre Attal et Bardella, quoi. C'est quand même très particulier ce qu'on a vécu là, non?
Ah ouais. Bah, bon, alors, y a deux choses parce que dans ce que tu dis. Déjà, sur le traitement médiatique des élections européennes, bon, moi je trouve qu'il est déplorable. Enfin, vraiment, enfin, c'est nul, quoi. Et je pense que les médias ont une énorme responsabilité dans les 50% d'abstention qu'on va probablement déplorer dimanche, hein, voilà. Le pire, c'est qu'on fera semblant d'être surpris. Après, sur ben, bon, alors, clairement, organiser sur un site du service public un débat entre Bardella et Attal, ben, en fait, y a même pas de justification. Enfin, comme a dit Bellamy, il n'y a même pas de justification au sens enfin, électoral du terme, en fait. Enfin, pourquoi, quoi? Dans ce cas-là, il fallait aussi inviter Glucksmann, c'est ce qu'il a dit, et il avait raison, quoi. Ça, c'est... Bon, mais cela dit, là, pour le coup, on est dans de la politique nationale, on n'est même plus dans de la politique européenne.
Bah, c'est une partie du problème.
Non, mais enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'en sort pas maintenant, parce que maintenant c'est enfin, terminé, mais ça fait, ça, c'est là-dessus qu'il a joué sa réélection. Si ce n'est pas moi, c'est Marine Le Pen. Il a absolument voulu polariser le débat pour que les gens pensent que si ce n'était pas lui, c'était forcément Marine Le Pen. Et ça a marché, sauf que là, en fait, il n'y aura pas de troisième mandat, enfin, sauf si nous. S'il ressort le coup de réviser la Constitution. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi continuer cette opposition, sauf s'il veut mettre Attal à sa place, je ne sais pas. Mais ouais, très, très problématique. Très problématique. Mais moi, je trouve que c'est un des points problématiques parmi d'autres. C'est dramatique le traitement des sujets européens par les médias. C'est vraiment coupable, quoi. Enfin, moi. J'ai l'habitude de m'énerver sur le traitement médiatique réservé au sujet climat, qui dépasse jamais 5% du temps médiatique. Et les sujets européens, c'est pire. C'est à peine 3%. Là, je crois, il y a un graphique dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès. Je crois, mais vraiment, au max du max, on a, voilà, au max du max, pendant la crise de l'énergie, on a atteint 5,7, quoi. Pendant les élections, 4,8. Enfin, comment les gens peuvent voter en conscience, en fait? Enfin, bref.
Et
Faut
comme le
pas
disait
trop me lancer
quelqu'un,
là-dessus, c'est vrai que ça m'agace assez vite.
et comme le disait quelqu'un, on doit voter dimanche. Et moi perso, j'ai pas encore reçu les papiers quoi. Les...
Oui. Bon, alors ça,
Comment
c'est
ça
vrai que pour
s'appelle?
le coup, les professions de foi, elles sont sur
Profession de
Internet,
foi.
là. Ouais, ouais,
Ouais,
ouais.
mais c'est. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui les attendent pour se faire une opinion parce que c'est un peu la tradition, tu vois.
Ouais, alors bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais plus si le live avait commencé ou pas. Moi, les programmes, ça me laisse totalement pantoise, en fait. Enfin, les
Ouais.
candidats proposent des choses qu'ils n'ont pas les compétences pour réaliser, la plupart du temps. Je peux vous montrer sur Context, ils ont fait une infographie de la faisabilité des mesures. Si tu regardes, c'est tout le temps rouge.
Ah, c'est dur
Rouge
ça.
ou orange. En fait, c'est pas faisable, c'est même pas. Alors, Bardella, il propose des choses qui sont soit déjà prévues, soit pas faisables. Ah, remarque, sur le énergie-climat, c'est moins rouge. Hors compétences, tu vois, c'est fin. Et donc, bon, enfin, moi, les programmes, ça me parle assez peu. Ce que je regarde, c'est les bilans. Et voilà, je vous invite à aller voir sur Vert le bilan des principaux partis qui permet de. Enfin, au
Est-ce
moins, on
que
voit ce qu'ils ont voté, quoi.
Cet article de contexte, il est accessible au public ou...
Je ne sais pas te dire. Je sais qu'ils ont, à l'occasion des élections européennes, ils ont fait un énorme travail
Comment il
avec beaucoup
s'appelle
de choses en
l'article?
accès libre. Mais attends, je réessaye. Attends, je reste.
Que je le mette dans le chat
Comment
si je peux.
s'appelle-t-il? Alors attends, il faut que je revienne en arrière parce que du coup, je me suis déconnectée.
Faisabilité.
Il s'appelle Analyse les mesures clés des programmes. En fait, ils ont. Bon, déjà, ils ont analysé la plupart des grands programmes. Ils ont fait cette analyse de la faisabilité au-delà de est-ce que c'est écolo, est-ce que ça l'est pas. Enfin, même s'ils sont pas que sur. Il est en accès libre de ce que je vois.
Ouais, ça a l'air cool.
Tu veux que
Je
je
vous
te
le mets dans le
l'envoie?
chat. Ouais, c'est bon, je viens de le mettre dans le chat, j'ai trouvé.
Et ils
Bah.
ont fait aussi, et ça, je trouve ça. Bon, là, on est à 5 jours des élections, les dés sont jetés, mais ce qu'ils ont aussi, c'est ils ont un agrégateur de sondages. Et ça permet, bon, les sondages sont ce qu'ils sont, mais ça permet quand même, quand tu agrèges tous les sondages qui existent, de s'approcher encore un petit peu plus de ce qui se passera. Mais bon, j'avoue que là, à quelques jours des élections, quand même, il y a peu de chances que ça bouge tant que ça.
Ouais, C'est après ça, je trouve ça donne un peu leur vision politique quelque part. Ça donne un peu l'orientation qu'ils veulent avoir.
À qui?
Ces petites promesses qu'on reçoit parce qu'ils ont
Ouais.
vraiment pas beaucoup de temps, donc ils mettent en avant les éléments qui leur paraît le plus rassembleur ou pertinent, quoi.
Ouais. Moi, sur les sujets écologie, moi, j'ai effectivement, je trouvais que Equinox a un bon programme. Il y a certaines listes, moi, qui m'ont franchement inquiété sur le. Je le dis parce que vraiment ça m'a énervé. Il y a une ruche, une liste qui s'appelle La Ruche Citoyenne. Ça a l'air tout mignon comme nom, comme ça. Et en fait, c'est vraiment c'est la complosphère, c'est l'obscurantisme. Il y a des fake news dans le programme. Ils ont invité Francis Lalanne et Dieudonné à faire un Twitch en les accueillant avec tous les honneurs. Ça, c'est vraiment c'est l'écologie qu'on n'aime pas. Et je voulais le dire parce qu'ils ont un nom tout mignon et c'est pas le cas.
Il y a 42 Max B qui dit: Malheureusement, je pense que l'urgence n'est pas l'écologie, mais de contrer l'extrême droite. Est-ce que tu penses que c'est incompatible?
Alors, déjà, faux dilemme.
Ouais, c'est un peu ça. Moi, je pense pas que ça soit incompatible non plus pour te
Je
répondre,
pense que oui, ouais, enfin,
Max.
enfin, je veux dire, c'est. Comment dire, il y a. C'est une élection à la proportionnelle. En fait, il suffit de ne pas voter pour le RN pour contrer le RN. On n'est pas obligé de voter Renew, en fait. Hein. Et puis en plus, enfin, vraiment, les équilibres sont pas les mêmes en France et à Bruxelles. Enfin, par exemple, le RN est largement premier en France, mais pas du tout au niveau européen. Et par exemple, le parti le plus puissant à Bruxelles, c'est LR, en fait. Si on voulait vraiment faire barrage au RN. Enfin, mais enfin, je pense que la question se pose pas en ces termes, en fait. Et puis si, en fait, enfin, l'urgence, c'est vraiment l'écologie, quand même. Enfin, les deux vont ensemble, de toute façon, mais...
Moquette me demande, j'ai dit encourager les gens à aller voter, sauf si ils vont aller voter l'extrême droite. Est-ce que je pense vraiment ça? Ouais, non, mais en vrai, je pense vraiment ça. Hein. Parce que l'extrême droite, c'est très dangereux politiquement, et pour l'écologie évidemment, donc on peut parler de ça, mais pas que. Et pour l'écologie, c'est catastrophique ce qu'ils font et ce qu'ils proposent.
Il y a eu un bon
Et le
débat
problème,
pour.
c'est que eux, ils arrivent à mobiliser leur électorat avec des discours qui sont. Enfin, c'est des gars, ça se sait, ça se voit qu'ils travaillent pas ou qu'ils travaillent mal. Et quand ils parlent, quand vous vous intéressez au contenu de leurs propos, enfin, y a pas grand-chose quand même. Hein. Donc, je connais pas grand-chose à la politique et je ne saurais pas interpréter ça. Je sais pas si c'est juste un vote de contestation, un ras-le-bol du système et tout. Je vais pas rentrer là-dedans, mais n'empêche que donner de la puissance à l'extrême droite, c'est problématique quand même. Hein. Politiquement, c'est très très problématique. Hein.
Et puis même d'un point de vue, enfin, ce serait intéressant de scénariser ce que ça donnerait un Parlement européen dominé par l'extrême droite. Honnêtement, je pense qu'on arriverait très rapidement à un blocage en fait de beaucoup d'institutions. Et je pense que ce serait vraiment problématique en vrai. Mais bon, on n'en
Donc,
est pas là.
ouais, clairement, l'extrême droite m'inquiète pour l'écologie et pas que. Et donc, j'encouragerais pas les gens qui votent extrême droite à aller voter dimanche, quoi. Ça serait me tirer une balle dans le pied. Donc, désolé si vous trouvez ça pas très démocratique comme déclaration, mais je pense que justement, c'est un danger pour la démocratie.
Il y avait un article, j'ai tombé sur un article très intéressant là-dessus sur la tolérance, en fait, la tolérance vis-à-vis de toutes les idées. Sauf sur celles qui sont intolérantes, en fait, parce que sinon, on perd tout, quoi. Donc, voilà. Moi, je suis aussi pour toutes les idées, sauf celle-ci.
Ah bah Thibaut, il mettait en même temps fameux paradoxe de la tolérance, juste avant que tu l'évoques. Donc
Voilà,
je crois que ça fait.
c'est un chercheur qui l'a théorisé, dont j'ai oublié le nom, mais qui disait qu'en gros, une démocratie, doit prôner la tolérance, mais sauf si ça a pour effet de faire grimper... l'intolérance, en fait.
Et quelqu'un qui disait, ça a trop sauté, donc je me souviens plus qui, désolé. Bardella, il a réussi à faire un truc que les autres n'ont pas réussi, c'est d'être sur les réseaux sociaux pour les jeunes et de toucher les jeunes.
Non, mais c'est vrai que c'est C'est assez difficile de voir que, en tant qu'eurodéputé, il est inexistant. Je crois qu'au cours de tout son mandat, il a déposé 21 amendements contre 1500 minimum pour Marie Toussaint ou Manon Aubry, quoi. Et le gars confisque le débat en France, quoi. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur. Mais bon.
En tout cas, ça défile pas mal. Hein. Parler de politique, franchement, il y a un peu plus d'activité que d'habitude.
Ouais.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et franchement, en plus, le chat, il est resté pratiquement tout le temps hyper gentil, sympa, même quand il y avait des désaccords avec ce qu'on disait. Après, bon, c'est une communauté peut-être un peu homogène,
Je découvrirai ça lors du replay. J'ai
mais...
demandé à Rodolphe de ne pas voir les commentaires, déjà parce que je ne peux pas parler et lire en même temps, et en plus parce que je ne veux pas que ça me pas que ça m'intimide. Mais c'est vrai que sur la crise démocratique actuelle, enfin moi, je terminerai là-dessus, mais enfin, moi j'ai appris à l'école que quand il y a crise, qu'elle soit économique ou autre, il y a montée des extrêmes. Donc là, on est en pleine crise. Et ça va continuer. La crise écologique est pour moi, c'est profondément un facteur de montée des extrêmes. En plus, je dis les extrêmes, mais je pense à l'extrême droite, hein, parce que je ne fais pas du tout partie de ces gens qui assimilent l'extrême gauche et l'extrême droite.
Ouais, fais gaffe, le chat est sans pitié. Une fois, j'avais dit les extrêmes, et dans le chat, il y a un mec qui a marqué, ou une femme, je ne sais pas, qui a marqué, tu dis les extrêmes, donc t'es de droite.
Ouais, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit. Enfin, vraiment, oui. J'ai regardé il n'y a pas longtemps une vidéo. Effectivement, non. Non, non. Même si, bon, pendant la crise économique de 2008, ça a aussi fait monter l'extrême gauche, par exemple, en Espagne, ce genre de choses. Mais je pensais plus à aux montées des extrêmes fascisants.
Bon, là-dessus, il y a des avis divergents dans le chat.
Non, mais parce que par rapport à la crise écologique, moi, je pense profondément que, enfin, c'est voilà, quand il y a crise, il y a montée de l'extrême droite, et la crise écologique va, enfin, si elle n'est pas adressée correctement,
Ouais.
même si c'est pas effectivement que le seul facteur, mais.
Alors, il y a un commentaire qui disait en même temps, on ne peut pas parler d'écologie sans parler de politique. Je suis plutôt d'accord, mais c'est différent de dire je pense que c'est important d'avoir une tarification du carbone ou de faire telle ou telle mesure politique et puis de rentrer dans la discussion sur tel ou tel parti, quel est le vote utile et tout. C'est quand même des délires un peu différents, quoi. Là, je suis sur un terrain qui n'est pas vraiment mon terrain de prédilection, hein, je dois vous avouer. Aussi parce que j'ai un positionnement où j'essaye de parler à pas mal de gens, donc j'évite de trop me positionner pour ça. Ou à cause de ça, hein. Je dis pas que c'est une bonne stratégie, mais le réveilleur n'est pas très situé politiquement. Donc
Mais
je prends des risques ce soir.
c'est ouais, mais alors ça, c'est un vrai sujet pour et pour le coup, l'Union européenne là-dessus me rebat un peu mes convictions. En France, on a coutume de dire que l'écologie ne peut pas être de droite, que ça n'existe pas en tout cas. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser ça aussi. Mais en fait, on voit que, enfin, typiquement, là, au Parlement européen, on a il y a certains Verts qui ont des politiques de vote un peu étranges sur l'immigration. Et puis surtout, on a certains Verts, par exemple les Autrichiens, qui gouvernent avec l'équivalent du RN, en fait, ça leur pose pas de problème. Et donc, en fait, on a la preuve qu'ailleurs en Europe, on peut mener une écologie de droite. Alors, bon, après, c'est probablement une écologie qui manque un peu de jambes sociales ou autres à minima. Mais ça remet quand même un peu en question les choses.
Ok.
On arrête
Non, mais
là-dessus.
je te comprends. Il y a un livre sur l'écofascisme que j'ai pas lu, mais je pense que ça rejoint un peu ces questions-là. Et moi, je peux imaginer aussi une écologie très 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 conservatrice, quoi. Je dis pas que c'est
Ouais,
bien,
oui.
mais ça me paraît envisageable, ouais, comme programme. C'est et ouais et c'est un truc, c'est même. C'est un truc où je suis étonné que la droite ou l'extrême droite s'empare pas de ces choses. Parce qu'il y a souvent cet attachement à la tradition, au passé, au terroir, etc. Enfin, le changement climatique, il déglingue tes vins, il déglingue tes recettes. Les forêts de mes parents, ça sera pas les forêts de mes enfants, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça, en fait, on l'entend jamais. Enfin, tu vois, y a un vrai truc. Si mettons que ma valeur, c'est une valeur de conservateur, que je veux léguer le pays que j'ai connu à mes enfants, bah, le
Ouais.
changement climatique, ça change quand même beaucoup de choses.
Ouais, c'est
Et
vrai,
ça,
ouais, je
c'est
suis
un
d'accord.
truc, tu vois, c'est jamais repris.
Je sais que par exemple en Allemagne, par exemple, c'est déjà beaucoup plus, disons, répandu. Enfin, il y a des espèces de villages, d'éco-villages, mais qui ne sont pas sympas du tout, en fait, un peu en mode, voilà, très obscurantiste, avec des valeurs plutôt marquées à droite. Bon, sans m'aventurer trop sur le sujet, on en a quelques représentants en France aussi, enfin, qui sont un peu border. Pierre Rabhi, c'était pas toujours terrible, terrible quand on le cherchait sur d'autres sujets que le jardinage, hein.
Il était assez
Voilà.
conservateur.
Ouais. Bah, la ruche citoyenne, par exemple, c'est un peu ça, hein. C'est cette idée, toi, ils sont pour l'écologie, mais ouais, c'est ça, c'est la nature, mais c'est aussi, par exemple, ils n'aiment pas la médecine conventionnelle, ils n'aiment pas trop les technologies, et donc, ouais, c'est obscurantiste, quoi.
Et je voulais finir sur. Attends, il y a peut-être une dernière question, et puis après on va s'arrêter tranquillement, un peu avant 23 h, et ça sera cool. Dernière question, quel programme tient le plus la route écologiquement parlant? Lequel a fait les promesses qui paraissent les plus crédibles? On a déjà parlé un petit peu, mais. Ah,
Attends, bah,
ce qu'on
j'ai
avait dit
presque
très
envie
rapidement.
d'aller voir, parce que pour le coup, bon, tu vois là, attends, je suis sur les mesures. Moi, bon, les plus crédibles. Je suis un peu embêtée d'en distinguer une en termes de crédibilité. Bon, là, si on voit place publique, ils sont un peu orange. Un peu orange et un peu rouge aussi. Renaissance. Je ne sais pas si on va en distinguer une en vrai, hein, mais je tente.
Et puis après, je peux meubler en attendant et dire que bah sur. Alors moi j'aime bien l'asso là, mince, que j'ai évoqué plus Bloom. Je trouve
Ouais.
c'est pas si mal. Et tu sais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Eux, ils avaient mis 20, 19,9 et enfin 20
Ouais.
à ELV, 19,9 à la France Insoumise et 19,8 à Raphaël Glucksmann.
Ouais.
Et je crois que j'avais entendu aussi une chronique de quelqu'un de Réseau Action Climat. Ah,
Ouais.
c'est toi qui l'as évoqué, mais je l'avais entendu passer à la radio, et elle disait aussi que voilà, les trois partis plutôt à gauche s'en sortent bien. Et puis après, même Blum a mis 14,6 14,6 au gouvernement, donc
Ouais.
c'est un
Sur
peu
le
ce que tu as
bilan,
dit,
sur
ouais.
le bilan, par contre, moi, je peux un peu plus me prononcer. J'aurais tendance à dire, en fait, moi, ce qui m'a un peu marqué, et ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur l'écologie, en France et ailleurs, il y a certains sujets sur lesquels, le groupe Les Verts a, pas les Français du coup, mais les autres, ont voté bizarre. Et par exemple, un des sujets sur le climat, par exemple, il y a pas mal d'écologistes du nord de l'Europe et d'Allemagne qui ont voté les accords de libre-échange. Alors que bon, les écologistes français, ils ont toujours voté contre. Mais tu vois, moi, je considère que d'un point de vue écologique, c'est profondément contradictoire. Et donc là-dessus, les Verts ont quand même quelques zones d'ombre, on va dire, pas tant les Français que leur groupe.
Que leur groupe.
Ce que j'ai moins constaté, mais peut-être aussi parce que c'est un petit groupe, que j'ai moins constaté dans le groupe de la France Insoumise. Eux, ils ont voté systématiquement contre les accords de libre-échange. Et voilà.
Et puis,
S'il
ouais.
y en a qui veulent aller voir, il y a un site qui est vraiment génial. Alors malheureusement, moi j'ai épuisé quasiment tous mes crédits là, pour la version gratuite, mais ça s'appelle assisteu.eu. Et donc on peut aller voir à la fois donc les parlementaires, je ne sais pas si je vais pouvoir cliquer parce que je suis presque au bout de mes crédits, mais on peut retrouver tous les votes, qui a voté quoi, à quel moment, les explications de leur vote, l'assiduité des parlementaires et tout. Et c'est vrai que c'est hyper pratique, et c'est là-dessus qu'on voit par exemple que le RN, Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Ils sont là pour les votes. C'est pour ça qu'ils ont. Bardella se vante d'avoir un taux de présence de 95%. Il est là pour les votes en plénière, mais c'est tout. Et ça permet de se rendre compte un peu de l'activité des groupes. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui bossent énormément, quoi. Enfin, Manon Aubry, Marie Toussaint, elles ont énormément travaillé, quoi.
Et pour ceux que ça intéresse, sur vraiment les questions écologiques, moi j'ai trouvé pas si mal le débat qu'ont organisé les shifters. Et en plus, ils ont fait un fact-checking et rien que ça, c'est assez intéressant
Alors, c'est
de
pas les
passer sur
shifters.
ce fact-check.
Ils ont fait un fact-checking, les shifters?
Sur leur débat, vraiment juste sur ce qui a été dit pendant le débat.
Ok, parce que du coup, moi, nous, on en a fait avec l'Institut Rousseau, avec aussi fact-checking. On a pris des sujets un peu complémentaires avec les shifters. Par exemple, je crois qu'ils ont pas fait commerce international, ce genre de choses.
Ouais, ok.
Voilà.
Comment je peux retrouver rapidement le débat pour ceux qui veulent aller plus loin? Débat candidat, le fact-checking.
Je te les ai envoyés sur notre échange WhatsApp.
Ouais, je peux le reprendre ici, effectivement.
Et voilà.
Et voilà, je ne sais pas si vous avez quelques toutes dernières questions, parce qu'on va pas tarder à arrêter, voire quelques suggestions pour le raid. Parce qu'à la fin, la tradition sur Twitch, c'est d'envoyer nos auditeurs sur une autre chaîne.
Allons, laquelle?
Bah, c'est ça, je leur demande s'ils ont des petites
Ah.
suggestions.
Alors moi j'ai découvert Twitch ce soir, hein, donc je vais pas pouvoir conseiller grand-chose.
Et on va regarder qui est là. On n'a pas parlé du parti pirate?
Ouais. Parti pirate, très bien leur programme au niveau écologiste. D'ailleurs, leur tête de liste, c'est une conseillère municipale ELV à Strasbourg, Catherine Zorn.
Et voilà.
Je pense qu'ils franchiront pas, hein, non plus les 5% cette année.
Nouvelle donne, on en a parlé un peu plus tôt, par contre, les gars.
Ouais, la roue sur roue. Bah demain, donc moi je sors un article où je parle de la liste. Il y a les listes écologie au centre de Governatory, la liste écologie positive de Yann Verling. Donc l'écologie des petits pas, j'ai appelé ça. Il y a Equinox, la rue citoyenne. Je ne sais plus qui d'autre j'ai parlé. J'en
Voilà.
ai compté 7 ou 8 en tout.
Partie animaliste, on l'a évoqué rapidement. Tu veux en dire quelques mots de
Ouais.
plus ou...
Bah, le parti animaliste, bah du coup, il est dans mon article, mais moi j'ai trouvé que, bon, en fait, quand on regarde leur programme, ça tourne que autour des animaux. Alors, ça a pour effet secondaire positif de proposer une réforme du système agricole, ce qui est tout à fait louable, parce que je crois que c'est en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre quand même. Mais ils n'ont pas d'autres, ils ont aucune autre mesure sur aucun autre secteur. Donc, c'est vrai que de là à considérer que c'est une liste écolo. Enfin, il manque quand même toute l'énergie, tous les transports. Ils n'ont pas de mesure sur ça, quoi.
Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu veux... Alors je vais vous envoyer chez Tout se comprend, qui fait de la vulga scientifique, parce que je l'aime bien et j'ai pas eu d'autres suggestions. Est-ce que tu veux un mot de la fin, Anne-Claire, un livre, un conseiller, je ne sais pas, un média, peu importe, libre à toi. Tu n'as rien préparé, mais tu peux dire ce que tu veux maintenant. Je peux te laisser un peu de temps pour réfléchir.
Eh ben, allez, allez, allez voter.
Voilà, on peut finir là-dessus.
parce que je pense que toutes mes recommandations, moi quand j'en ai, dès qu'on découvre un podcast, un livre, un truc intéressant, tout ça, c'est en vert à un moment ou à un autre. Et voilà, j'ai retenu quand même le podcast d'échange climatique sur le Green Deal là, que j'irai écouter parce que voilà, les quelques fois où j'ai écouté, j'ai trouvé ça très bien.
Ok. Donc, je lance le raid, il va partir dans une dizaine de secondes. Donc, ça nous laisse le temps de vous dire bah, merci à tous de nous avoir suivis, merci pour les questions, vous avez été assez nombreux et le chat a été animé et resté cool. Donc, merci, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et puis, merci évidemment à Anne-Claire quand même de nous avoir consacré ce temps, plus le temps de préparation, c'est quand même très sympa à
Bah, merci pour l'invite. C'était
elle.
chouette.
Et voilà, bah, bonne soirée à tous. et à mardi prochain.
Salut!